Oui, bonsoir à tous et bienvenue ici dans la salle de la Sécrerie. Donc, les membres du Collège communal se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à cette réunion d'information préalable, qui est une réunion, vraiment la toute première réunion préalable à la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement et puis du lancement d'un projet. Alors, celle-ci est prescrite par le Code de l'environnement, dans le cadre de l'introduction d'une demande de permis unique pour le projet d'implantation d'un parc de 2 éoliennes sur le territoire de la ville de Wavre. Et donc, et ça se passe évidemment aux zoning nord et au parc de la Wavre Noire-Épine. Le projet consiste donc des 2 éoliennes, une cabine de tête, des chemins d'accès, des aires de montage et la pose de câbles électriques. Et le projet est développé par la société Luminus, dont nous avons des représentants ici. Je rappelle que nous ne sommes pas encore aujourd'hui au stade de la demande de permis. Et à ce propos, je vous confirme la volonté d'une totale transparence dans le traitement de ce dossier. Sachez que nous sommes soumis à une procédure extrêmement cadrée qui va vous être reprécisée dans un instant et qui a pour objet de garantir tous vos droits. C'est donc l'occasion ce soir d'entendre de vive voix vos remarques, vos critiques, vos suggestions, vos inquiétudes, enfin tout. Et les points d'attention que vous souhaitez mettre en avant. Toujours dans le souci d'un dialogue constructif. Voilà, nous voici réunis ce soir pour cette séance publique ouverte à toute personne désireuse de s'informer sur le projet. Merci en tout cas pour votre présence et je cède la parole aux gens qui vont présenter le projet.
Merci, monsieur le bourgmestre. C'est bien. Non, vous pouvez vous installer dans la salle comme vous préférez. Et s'il y a des questions qui vous concernent ou peut-être la commune tout à l'heure, je me ferai un plaisir de revenir vers vous, évidemment. C'est bien parce que monsieur le bourgmestre, il fait tout le boulot de modérateur. Donc, il a déjà bien expliqué comment ça va se passer ce soir. Et effectivement, nous sommes au premier stade d'une procédure bien orchestrée qui donne d'abord la parole aux citoyens. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, comment va se passer cette soirée? On est là dans la partie accueil dans quelques petites minutes avec le quart d'heure académique qui nous a permis d'accueillir tous ceux qui nous cherchaient un petit peu dans la sucrerie. Eh bien, nous allons vous présenter d'une part le projet de Luminus et puis également Cersus qui sera là pour vous expliquer ce qu'est une étude d'incidence et ce qu'elle va venir mesurer pour éventuellement pouvoir déposer un permis. Mais ça nous amène bien plus loin. On prendra l'échelle du temps aussi pour vous expliquer quelles sont les différentes étapes dans la procédure légale qui commence donc aujourd'hui même. C'est un peu l'instant zéro, finalement, de ce projet. Ensuite, et ça, c'est le plus important, au début, on va vous demander d'être le plus attentif possible, de prendre les notes que vous désirez, d'écrire des questions ou des affirmations que vous avez envie de donner dans la suite de la soirée. Mais au début, c'est ex cathedra. Et puis, à partir du moment où les présentations sont faites, là, je viendrai vous tendre le micro pour tous ceux qui veulent s'exprimer ce soir et poser des questions, tant à la hauteur de projet que au bureau d'études. Alors, je sais qu'il y a des personnes d'expression néerlandophone dans la salle. Malheureusement, cette soirée n'est pas bilingue, mais vous pourrez vous exprimer également si on fera le maximum pour se comprendre, parce que je sais que des personnes sont venues des communes voisines également autour de Wavre, puisqu'on est pratiquement sur la frontière linguistique. Et on essaiera d'avoir terminé pour 21h. Je crois qu'à ce moment-là, on aura fait le tour de toutes les questions, les types de questions. De toute façon, ce n'est que le début. On va jeter un coup d'œil d'ailleurs sur cela, avec d'abord les interlocuteurs de ce soir. La ville de Wavre, on a eu monsieur le bourgmestre qui nous a dit son petit mot. Ensuite, c'est Jacques Travieso et Pierre Jacques qui seront là pour Luminus, pour nous présenter le projet, et le bureau d'études avec Tanguy de Jagereux qui lève la main pour se signaler, qui sont tous trois à la même table, et moi-même, je me suis déjà présenté pour animer cette soirée et faire en sorte que tout le monde puisse se parler. Alors, le but d'une soirée comme celle-ci, c'est pas que vous repartiez, d'accord, on n'est pas là pour vous convaincre. Le but, c'est essentiellement que tout le monde puisse se parler, comme l'a très bien dit monsieur le bourgmestre, dans le respect, en se posant des questions, en pouvant trouver des réponses peut-être aux questions que vous avez, et surtout en vous présentant concrètement le projet dont vous avez peut-être entendu parler par des rumeurs. Là, c'est des plans, c'est vraiment des choses un peu plus poussées qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, s'informer, c'est un des buts, émettre vos observations et suggestions, c'en est un autre, présenter des alternatives, parce que vous connaissez, c'est vous qui connaissez le mieux le terrain sur lequel on va arriver avec le projet qui nous occupe aujourd'hui. Et puis peut-être aussi identifier des points, et ça c'est parfois le plus important, pour le bureau d'études qui va savoir comment orienter son étude en fonction de ce que vous aurez demandé, qui soit mesuré en détail. Voilà le but d'une soirée comme celle-ci, RIP comme on l'appelle dans le jargon, réunion d'information préalable. Je vous l'ai dit, c'est l'instant zéro de cette procédure pour peut-être voir dans quelques années, parce qu'on parle en années, la construction de ces éoliennes. Alors, ce qui est très important, c'est que tout ce que vous allez dire aujourd'hui est filmé. Il y a une caméra derrière vous. On vous a demandé de laisser vos coordonnées à l'entrée, nom, prénom et localité. Eh bien, c'est pour savoir qui s'exprime ce soir, parce que tout ce que vous allez dire aujourd'hui fera état d'un procès-verbal dressé par la commune de Wavre et aussi par un procès-verbal sonore et vidéo. C'est pour ça qu'on vous filme, c'est pas pour vous fliquer du tout, c'est parce que vraiment pour avoir une trace de tout ce qui s'est dit. Et tout ce qui s'est dit aujourd'hui, eh bien, devra être suivi de conséquences dans le PV qui sera remis. Et si ce soir vous n'avez pas envie de vous exprimer, ou que vous voulez le faire peut-être dans une autre langue parce que c'est plus facile pour vous, ou que des personnes qui ne sont pas venues ont envie de s'exprimer par la suite, vos voisins, vos connaissances, tout ça est possible pendant le délai qui va courir jusqu'au 12 février. 12 février, c'est le temps que vous avez pour envoyer du courrier. Alors inutile, vous pouvez le faire, mais inutile de doublonner ce que vous aurez dit ce soir. Mais si vous aviez d'autres idées, d'autres questions qui viennent jusqu'au 12 février, tout ça est dans le fascicule qu'on vous a donné, qui est encore disponible après. Et ce slide, on le remettra évidemment sur l'écran en fin de soirée pour que vous puissiez prendre note des différentes adresses. Donc vous écrivez au Collège communal de Wavre et vous faites une copie au demandeur, à savoir Luminus, avec l'adresse électronique, si vous préférez, que le courrier papier, évidemment. Et je crois que pour la ville, on peut avoir une adresse électronique aussi. Mais en tout cas, là, on vous donne l'adresse papier. Voilà, je vous ai tout expliqué sur le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Il est temps maintenant de passer la parole, pour commencer, à Jacques Traviezo, qui va donc nous présenter le projet qui nous occupe aujourd'hui. Je vous passe la petite télécommande, Jacques, et un micro aussi.
Voilà, parfait, parfait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Monsieur le Bourgmestre pour ces quelques mots. Merci Olivier Coll pour l'introduction. Mon nom est Jacques Traviezo. Je représente Luminus. Je suis développeur éolien. Je vais m'occuper du projet. Je suis chef de projet pour le projet qui nous concerne ce soir. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous le présenter. Mais avant ça, laissez-moi vous dire quelques mots sur Luminus. Quelques mots aussi sur le contexte énergétique. Donc voilà pour Luminus, un des acteurs principaux dans l'énergie en Belgique. Il est détenu à 68% par EDF, donc Électricité de France, premier producteur bas carbone au monde, et puis par des sociétés qui sont actives dans le secteur public à un fort ancrage local, qui sont entre autres Etias, Publielec, Socofe, Tecteo. Comment ça marche ? Non, c'est dans l'autre sens. Désolé, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc je fais partie des 2900 collaborateurs de Luminus, grâce auxquels on a une part de marché de 23%, au travers d'un actif de production qui s'élève à 2228 MW pour 35%, on va dire, on va arrondir en renouvelables, essentiellement de l'éolien et un tout petit peu d'hydro sur la Meuse, et de 65% de non renouvelables, en grande partie de la centrale TGV, turbine gaz vapeur, et un petit peu de nucléaire, puisqu'on détient une toute petite partie, on détient 5% à Tihange et 5% à Doul. Désolé, voilà. Donc voilà, vous voyez ici le petit schéma en bas à droite qui est la capacité éolienne installée, donc qui est en constante progression et voilà, et qui nous permet aujourd'hui d'être numéro un en éolien terrestre. Voilà, Luminus a pour objectif et pour mission d'aider donc ses partenaires, ses clients à construire un avenir énergétique neutre en carbone, de participer en tant qu'acteur de premier plan à l'électrification de tous les secteurs d'activité. Et pour ce faire, nous allons nous baser sur nos trois piliers qui font que nous sommes un énergéticien intégré, donc la production de l'énergie au travers des actifs de production, la fourniture de cette énergie au travers des contrats de fourniture et la proposition de solutions techniques visant l'électrification et la réduction des émissions de CO2. Voilà, on va rester un petit peu sur les gaz à effet de serre et les émissions de CO2 pour parler maintenant un petit peu du contexte énergétique et finalement vous expliquer les raisons pour lesquelles on installe des éoliennes. Voilà, donc comme vous le savez, la transition énergétique est au cœur de nos préoccupations, donc pas seulement chez Luminus, mais dans nos sociétés au sens large. Voilà, je pense qu'il n'est pas faux aujourd'hui de dire que très peu de gens remettent en cause le réchauffement climatique, et plus particulièrement la relation qu'il y a entre les gaz à effet de serre, donc les conséquences des gaz à effet de serre sur la montée des températures. On le voit bien sur les schémas que je viens de montrer. Et ici, sur ce dernier, on voit qu'il y a des hausses de température qui sont constantes depuis 1960. Donc pour lutter contre l'augmentation de ces gaz et pour répondre aux défis climatiques et environnementaux, l'Union européenne s'est engagée à transformer quelque peu son système énergétique. Donc pour limiter l'augmentation du CO2, l'Union européenne mise maintenant sur les énergies renouvelables et notamment l'éolien terrestre. Donc les objectifs qu'ils se sont fixés, ben, ils sont assez clairs. En 2050, la neutralité carbone, et en 2030, une diminution de 55% des émissions par rapport à 1990. Donc tous ces objectifs ont été retranscrits dans tous les pays de l'Union, et pour la Belgique, ils ont été retranscrits partie pour la Flandre et partie pour les trois régions finalement, quoi. Alors les objectifs pour la Wallonie. Voilà, les objectifs pour la Wallonie sont, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont assez ambitieux, puisque pour atteindre les objectifs de 2030, il va falloir doubler la capacité installée en éolien. Voilà, je vais vous montrer ici, parce que c'est un peu confus. Donc, les objectifs fixés en 2030, c'est 6200 gigawattheures de production éolienne. Nous sommes aujourd'hui à 1421 mégawatts installés. Pour vous donner une idée, une éolienne, aujourd'hui, elle fait, on va dire, entre 5 et 7 mégawatts. Il va falloir doubler cette puissance en 2030. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on va devoir doubler le nombre d'éoliennes, simplement parce qu'historiquement, les éoliennes qu'on a installées il y a 15 ans, hein, ça fait plus ou moins entre 15 et 20 ans, pardon, qu'on installe des éoliennes, étaient des éoliennes de 2, de 3 mégawatts. Aujourd'hui, les éoliennes qu'on installe sont des éoliennes de plutôt 6 à 7 mégawatts. Mais vous le voyez, l'objectif est quand même assez important. Et pour le dire en d'autres mots, il y a quand même pas mal de boulot, hein, parce qu'on doit installer plus ou moins 200 mégawatts par an. Alors finalement, pour répondre à la question pourquoi des éoliennes, donc évidemment pour des raisons écologiques, hein, on vient d'en parler, mais pas que. Finalement, on installe des éoliennes. L'installation des éoliennes va permettre d'amplifier le nombre d'installations, va permettre de stabiliser les prix, va nous donner une indépendance énergétique. Je vous rappelle, il y a 2-3 ans, on a vécu une année avec des prix de l'énergie qui sont montés au-delà de 500 euros du mégawattheure. Pour avoir une idée, le prix historique est de 40, et aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 70-80 euros du mégawattheure. Donc cette indépendance énergétique va nous permettre aussi de diminuer, de stabiliser les prix, et bien sûr de couvrir nos besoins, puisque d'après Elia, nous allons consommer 3 fois plus d'ici 2050. Mais trêve de bavardage, on va passer maintenant au projet, hein, donc l'objectif de votre venue ici. Donc vous avez déjà la carte entre les mains, vous avez vu l'implantation. Alors, pourquoi a-t-on choisi ce site en particulier? Au fond, un projet éolien a fait l'objet de nombreuses contraintes, de nombreuses exigences. Et le premier point pour choisir un site, c'est évidemment le gisement. Il faut que le gisement venteux soit assez important. Donc, ce qui est le cas ici. Alors, on va aussi veiller à ce que le projet respecte au mieux le cadre de référence éolien, et spécialement, entre autres, il doit respecter les distances à l'habitat, respecter le principe de regroupement des infrastructures, ici on est proche d'un zoning, respecter les zones boisées. Enfin, toutes ces contraintes et exigences seront bien sûr analysées dans l'étude d'incidence. C'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà, vous voyez ici le plan de secteur. Donc c'est un plan du plan de secteur. Donc en couleur mauve, c'est la zone d'activité économique, et les points orange sont représentés représentent les éoliennes. Hein. Donc ici, par rapport au principe de regroupement des infrastructures, on est en plein dedans. Ici, par rapport aux distances à l'habitat, donc c'est ce qu'on appelle une carte de contrainte. Tous les buffers colorés sont des zones d'exclusion pour les éoliennes. Donc les buffers bleus, c'est des zones d'habitat, enfin des zones des maisons isolées, représentent des maisons isolées, pardon. Le rouge représente les zones d'habitat, donc c'est un buffer dans lequel on ne peut pas aller. Le jaune, les routes. Et le vert, les zones boisées. Alors un autre point important pour ce projet et pour tous les projets éoliens, c'est le raccordement. C'est très très difficile aujourd'hui en fait de trouver des points de raccordement qui sont non congestionnés. Et ici, on a quelque chose de très spécial, c'est que on va pas se connecter à Aurès ou chez Elia. On va se connecter directement chez GSK. Donc on ne va pas congestionner le réseau plus qu'il ne l'est. On ne va pas provoquer des décrochages intempestifs de PV. Et surtout, tout le gisement éolien, donc toute la production, va pouvoir être produite en continu. Quand on se raccorde au réseau, on a souvent des arrêts. Donc au réseau, il ne vous dit rien. Et aussi, il vous dit il faut stopper l'éolienne parce que le réseau ne sait plus la tourber. Donc ici, on a cette facilité de raccordement. Et qui plus est, on ne doit pas tirer des lignes de plusieurs kilomètres pour aller trouver une connexion. Bon, je vous ai montré là les éléments essentiels dans les contraintes. Il y en a un qui reste, et c'est la défense. Donc on est près de la zone, on est tout près de l'aéroport de Beauvechain. Il est en plein milieu de la zone orangée. Donc cette zone orangée, c'est ce qu'on appelle une contrôle zone. C'est dans notre atlas des contraintes, la contrainte de Beauvechain. Alors en théorie, pas de projet dans cette contrainte, mais on est en discussion avec la défense. On l'a été l'année passée. Bon, c'était les élections, on n'avait pas beaucoup de temps à nous accorder. On attend maintenant, on a une ministre de la Défense qui est en affaires courantes, donc on attend de voir ce qui se passera et on ira les rencontrer pour voir si les ouvertures sont possibles. Hein. Donc on est vraiment en bord de zone. Ici, vous voyez les zones rouges, donc c'était un aplat rouge complet. La Défense a ouvert ici quelques zones suite à des demandes de projet. Donc voilà. En résumé, donc on a deux éoliennes pour une hauteur totale envisagée de minimum 200, maximum 250 mètres. Une production estimée nette à 38 gigawattheures par an. Alors c'est maximaliste évidemment, c'est vraiment si on met une éolienne de 250 mètres avec un rotor de 162 mètres. Donc des éoliennes qui produisent énormément. Si on met une éolienne de 200 mètres avec un grand rotor, voilà, on visera les 28-30 gigawattheures par an. 38 gigawattheures par an, ça équivaut à à la consommation de 10 000 ménages et en termes de CO2 évité, on est à 5 600 tonnes. Les retombées locales, donc essentiellement, on va essayer de travailler avec des entreprises locales pour tout ce qui est travaux, les incitances budgétaires pour la ville de Wavre, c'est la taxe pour les mâts, ou éventuellement un partenariat pour réaliser des travaux sur des bâtiments publics, hein, des écoles, je ne sais pas moi, une installation PV, des chargeurs pour véhicules, la recouverture d'un bâtiment pour améliorer son efficacité énergétique. Et alors un partenariat possible avec une coopérative, soit une coopérative existante, coopérative à créer, ou soit une coopérative que nous avons créée, qui s'appelle Lumi Wind, dont je vous donnerai ici plus bas les coordonnées. Alors à ce stade-ci, on est ouvert à toutes les possibilités de partenariat. C'est un peu tôt pour les présenter, mais si vous êtes intéressé, si vous êtes membre d'une coopérative, vous pouvez toujours entrer en contact avec nous très en amont du projet pour voir s'il y a une possibilité de travailler ensemble. Voilà, la coopérative LumiWind, elle compte déjà 3000 coopérants. On peut devenir coopérant pour un montant de entre 25 et 10 000 euros maximum et un rendement estimé, variable, qui peut aller jusqu'à 4%. Et donc voilà, vous pouvez visiter le site web lumiwind.be. Le planning et les prochaines étapes, en un peu plus de détails que ce que M. Coll a expliqué. Donc aujourd'hui, on lance le projet de façon officielle. Hein. On est le 28 janvier. Vous avez 15 jours pour émettre et pour donner vos remarques. Une étude d'incidence démarrera dans la foulée. On a par ailleurs déjà fait quelques relevés d'hivernants. Tu me confirmeras, Tanguy, si c'est juste ou pas. L'étude d'incidence va durer entre 1 an et 2 ans. On va devoir installer un mât de mesure. Et ensuite, à l'issue de cette étude d'incidence, on introduira la demande de permis. On aura auparavant trouvé un accord avec la Défense. Je ne peux pas aujourd'hui affirmer qu'on ne va pas déposer une demande de permis, mais sans l'accord de la Défense, ce sera un petit peu compliqué. Voilà, donc la demande de permis 2026-2027, si tout se passe bien, on a un permis à être octroyé et une construction serait possible en 2029. La construction va durer grosso modo 9 mois, 9 à 12 mois. Et si on a un recours, ce sera pour 2030. Et si le recours déposé est refusé, on ira peut-être encore 5 ou 10 ans plus loin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, pour rappel, je vois que des gens prennent des photos. La présentation sera consultable via le QR code que vous avez vu et qui se retrouve peut-être sur l'affiche, je ne sais pas. Et sinon, via ce QR code, donc c'est filmé, je pense que Olivier Coll l'a déjà dit, vous pouvez revoir toute la soirée. Voilà, merci beaucoup, je passe le micro.
Merci.
Tanguy de chez Certus.
Traviezo qui sera là pour répondre à vos questions tout à l'heure et évidemment avec son collègue Pierre-Jacques qui l'accompagne pour Luminus. Et maintenant, on va vous expliquer en quoi va consister l'étude d'incidence qu'on a déjà évoquée dans la présentation du projet. Et pour ça, c'est le bureau Certus qui a été engagé, représenté ce soir par Tanguy de Jaegereux. Tanguy, expliquez-nous un petit peu ce que vous allez faire comme mesure pour peut-être préparer le terrain de ces potentielles éoliennes.
Bonsoir à tous. Donc j'ai même plus à me présenter, c'est parfait. Donc Tanguy Jaegereux du bureau Certus et donc nous on a été mandatés pour réaliser l'étude d'incidence de ce projet éolien. Je vais commencer par présenter rapidement le bureau d'études Certus. Donc on a un bureau ici basé en Wallonie à Louvain-la-Neuve avec plusieurs domaines d'expertise. Donc on a 4 grands pôles. Le pôle entre guillemets environnement. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, on fait des études d'impact, des études d'incidence. On accompagne des entreprises dans leur démarche de demande de permis d'environnement, la certification ISO et ce genre de choses. On travaille aussi dans le domaine du sol. Donc, c'est les études de pollution du sol, les études d'assainissement. On a également des experts en sécurité. Donc là, on va plutôt intervenir sur des sites industriels pour les aider à établir leur rapport de sécurité, notamment sur des sites Seveso. Et on a également un département juridique avec des juristes spécialisés dans la législation environnementale. Donc on est actif dans les trois régions de Belgique, donc Bruxelles, Flandre et Wallonie. Et on est un bureau, bien entendu, qui est agréé pour la réalisation d'études d'incidence, mais également d'études de sol en région wallonne. Cet agrément, ça veut dire quoi? Donc c'est un agrément qui est délivré par les ministres compétents de la région wallonne pour une durée limitée, souvent c'est 3 à 5 ans, et qui est basé sur notre expérience, sur les profils en interne, et qui nous permet la réalisation de ces études d'incidence. Donc tout le monde ne peut pas les faire. Et ça garantit, entre guillemets, par cet agrément, on a un devoir de neutralité, d'indépendance et d'expert à pourvoyer. Donc, qu'est-ce que ça va être une étude d'incidence? C'est un rapport d'un expert indépendant qui est joint à la demande de permis. Donc, qui est joint à la demande de permis au même titre que toute une série d'autres documents. Donc, une demande de permis, il y a des plans d'urbanisme, évidemment, il y a des avis préalables, il y a toute une série de documents, dont l'étude d'incidence, qui est effectivement un gros volet. L'étude d'incidence vise à identifier, décrire et évaluer les incidences d'un projet sur l'environnement, que ce soit des faits directs ou indirects. Donc, quand je parle des faits directs, par exemple dans le cas d'un projet éolien, on va évidemment penser à l'impact visuel, l'impact que peut avoir un projet sur le paysage. Et dans les effets indirects, ça peut être par exemple des choses qu'on ne voit pas, le raccordement, le chantier, ce genre de choses. Ça va être des effets à court, moyen et long terme. Donc il faut savoir qu'un permis éolien est délivré pour une période de 30 ans, donc c'est une durée assez longue dont il faut tenir compte dans l'évaluation. Et on évalue les effets du projet lors de la construction, lors du chantier, lors de l'exploitation bien évidemment, mais également lors de la phase de démantèlement. L'étude d'incidence doit aussi étudier les alternatives possibles d'un projet. Donc les alternatives possibles, ça peut être des alternatives techniques. Donc par exemple, dans le cas d'un projet éolien, est-ce qu'il y a d'autres modèles d'éoliennes, d'autres gabarits, des éoliennes plus petites, des rotors plus grands qui conviendraient mieux au projet? Donc ça doit être évalué. Et ça peut être des alternatives de localisation. Donc est-ce qu'il y a d'autres sites dans un certain périmètre qui conviendraient mieux? Est-ce que sur le site même choisi, est-ce qu'il y a d'autres configurations au niveau des machines qui seraient préférables? Donc ça doit être étudié dans l'étude d'incidence également. On formule toute une série de recommandations qui sont d'une part destinées aux demandeurs, donc ici à Luminus, qui peuvent l'amener à faire évoluer son projet en cours d'étude pour améliorer celui-ci, ou ça peut être des recommandations pour l'autorité compétente, donc qui peuvent se transformer en conditions qui sont reprises dans le permis si celui-ci est délivré. L'étude d'incidence doit aussi apporter des réponses aux demandes, remarques et suggestions du public, donc qui seront exprimées ce soir ou dans les 15 jours qui vont suivre. Et donc pour résumer, c'est un outil d'évaluation, parce qu'on va vraiment étudier l'impact d'un projet en tant que tel. C'est un outil d'orientation pour le promoteur, car ça peut l'amener à faire évoluer son projet. C'est un outil d'information, car l'étude d'incidence va être disponible et consultable pendant l'enquête publique pour le public, pour les riverains. Et donc, au-delà de l'aspect purement étude d'impact, il y a également dans l'étude d'incidence tout un volet descriptif du projet. Donc, on va décrire les modèles d'éoliennes, les itinéraires, le chantier, etc. Donc, tout ça sont des informations essentielles. Et c'est un outil d'aide à la décision pour l'autorité compétente, ici la région wallonne, qui va pouvoir notamment se baser sur cette étude pour décider ou non d'octroyer le permis pour le projet. Il faut savoir, comme j'ai déjà dit, donc on a agrément, on se doit d'être neutre et indépendant par rapport au projet, et l'étude d'incidence est évaluée par une instance également indépendante, ce qu'on appelle les pôles environnement et aménagement du territoire, qui sont des experts indépendants de la région wallonne, enfin pas directement de la région wallonne du SPOE, mais en région wallonne. Et donc, eux remettent un avis sur la qualité de l'étude, mais également sur l'opportunité environnementale du projet. Alors, dans le processus d'annonce du permis, comme on l'a dit, on est vraiment ici au tout début, à stade d'avant-projet, la réunion d'information préalable. Va suivre l'étude d'incidence, qui va être vraiment une phase d'optimisation via notamment nos recommandations, dans laquelle on va tenir compte également des remarques du public. Et une fois que l'étude d'incidence sera terminée, on aura normalement un projet définitif qui fera l'objet du dépôt de la demande de permis. Et s'en suivra une instruction, qu'on appelle une instruction administrative. Donc l'autorité, les fonctionnaires techniques et délégués de la région wallonne vont demander toute une série d'avis. Ils vont consulter les communes concernées. Ils vont consulter, par exemple, le DNF, la Division des Natures et Forêts, la cellule bruit, les instances aéronautiques, bien sûr. Et en parallèle, il va avoir une enquête publique qui va durer 30 jours, dans lequel le dossier de demande de permis sera consultable par les riverains et pendant lequel vous aurez l'occasion encore de faire à ce moment-là des remarques sur le projet, cette fois-ci en toute connaissance de cause, parce que c'est un peu l'inconvénient de ces réunions d'information du public, c'est qu'on n'a pas encore tous les éléments en main pour pouvoir émettre un avis pertinent sur un projet. Au moment de l'enquête publique, normalement, tout est là dans l'étude et dans le dossier. Et donc, sur base de ces avis consultatifs qui sont demandés par l'autorité compétente, des remarques dans l'enquête publique, la région wallonne, l'autorité compétente, a entre guillemets tous les éléments en main pour prendre une décision et autoriser ou non le permis. Et donc, généralement, ça dure 5 à 6 mois d'instruction administrative. Or, au niveau du contenu de l'étude d'incidence, dans le cadre d'un projet éolien, c'est assez spécifique, dans lequel nous, on dispose quand même d'assez grande expérience, on va commencer par analyser les critères d'implantation. Donc, on a parlé rapidement, mais il faut savoir qu'effectivement, en Wallonie, on ne met pas des éoliennes n'importe où. Il y a des critères à respecter qui sont définis par ce qu'on appelle le cadre de référence éolien wallon, mais il y a également d'autres outils, d'autres prescriptions. Donc, il y a tout d'abord la distance à l'habitat. Donc, on va différencier ce qu'on appelle les zones d'habitat, qui sont les zones d'habitat au plan de secteur et les habitations dites isolées. Donc, c'est des habitations hors zone d'habitat au plan de secteur, souvent en zone agricole, donc des fermes qui sont en dehors des villages. On a des distances à respecter par rapport aux infrastructures. Donc, ça peut être des conduites souterraines, de transport de gaz, c'est ce qu'on dit de fuxis, conduites air liquide. Ça peut être des lignes de tension. Ça peut être des choses qu'on ne voit pas aussi, donc des lignes, des faisceaux hertziens, donc des entre antennes de télécommunications, il y a des distances à respecter parce qu'elles peuvent être perturbées par les éoliennes. Il y a les distances aux zones d'intérêt biologique, donc soit les sites Natura 2000, les sites de grand intérêt biologique. Là, on va étudier la localisation du projet par rapport aux zones d'intérêt paysager. Donc, il faut savoir que sur le territoire wallon, il y a des périmètres d'intérêt paysager qui sont définis. Il y a des points, des lignes de vue remarquables également qui sont identifiés, qui sont là et dont il faut tenir compte dans l'étude d'incidence. Et on va également étudier les interactions, la localisation du projet par rapport à d'autres parcs éoliens, soit des parcs qui soient existants, autorisés ou simplement en projet. C'est qu'ici, on n'est pas dans un contexte où il y a des éoliennes vraiment proches de Wavre. Je pense qu'en Wallonie, les plus proches doivent être du côté de Perouet. Mais dans certaines zones, dans certains sites, il y a vraiment un impact cumulatif important entre projets éoliens qui peut avoir lieu. Donc, par thématique, on étudie au niveau du milieu humain, évidemment le plus important, le cadre de vie, le paysage. Donc là, on va notamment réaliser, je vais vous montrer quelques exemples, ces fameux photomontages, j'y reviendrai. On va étudier l'impact du projet sur le patrimoine, est-ce qu'il y a des biens classés dans les environs sur lesquels le projet pourra avoir un impact. Toujours dans le milieu humain, il y a le bruit. Évidemment, une éolienne fait du bruit comme n'importe quelle installation industrielle. Donc là, on va évaluer ça notamment en faisant déjà des mesures de bruit ambiant sur place avant que le projet soit là. Et on va ensuite faire des modélisations du bruit généré par les éoliennes et comparer ça à des normes, j'y reviendrai. Il y a l'ombre mouvante, donc ce qu'on appelle plus fréquemment dans le jargon l'ombre stroboscopique. Donc il faut savoir que l'ombre générée par les pales qui tournent peuvent avoir un effet gênant au niveau d'habitation, par exemple, ou de zone de travail. Ici, on est à côté d'un zoning. Et donc ça, on en tient compte dans l'étude et il y a également des normes à respecter. De manière plus générale, sur les activités socio-économiques. Au niveau des infrastructures, on en a déjà pas mal parlé. Alors, au niveau du milieu physique, là, on va étudier l'impact que pourra avoir le projet sur le sol, sur les eaux souterraines, les eaux de surface. Sur le sol, ça peut être des risques de pollution. Donc, est-ce qu'il y a l'éolienne en elle-même peut générer des pollutions sur le sol, sur les eaux souterraines? Est-ce qu'il y a des barrières de prévention qui sont mises en place pour éviter ce risque-là? Sur les eaux de surface, est-ce que les éoliennes vont générer une imperméabilisation des eaux de surface, vont potentiellement créer des problèmes au niveau des ruissellements? C'est des choses qui sont étudiées et prises en compte. Et en termes de qualité de l'air, ça a plutôt, dans ce cas-là, un impact positif. Comme on l'a déjà dit, les éoliennes permettent de produire une électricité décarbonée, donc ça va plutôt s'évaluer en matière d'un gain en matière d'émissions de CO2 par rapport à d'autres moyens de production. Souvent, c'est vrai qu'on compare ça avec une centrale TGV, turbine gaz vapeur. Au niveau du milieu biologique, pardon, on va décrire les habitats naturels qui sont présents sur le site. Donc, ça se passe en faisant toute une série de relevés biologiques sur place, souvent pendant une saison complète, enfin une année complète. Et on va être très attentif. On sait que les éoliennes, certaines espèces d'oiseaux, certaines espèces de chauves-souris sont particulièrement sensibles à l'éolien. Donc on va faire vraiment des relevés spécifiques, surtout pour les oiseaux, pour les chauves-souris, pour pouvoir après déterminer s'il y a des enjeux particuliers sur le site et s'il y a un impact du projet, prendre les mesures adéquates. Et donc, au bout de tout ça, on va avoir toute une série de recommandations, une longue liste de recommandations qui sont un ensemble de mesures qui visent à éviter, réduire et compenser les incidences négatives d'un projet si celui-ci devait être autorisé. Bien entendu, on tient compte des spécificités du projet. Donc, tous les projets éoliens ne sont pas les mêmes. En fonction du nombre, de la puissance des machines, de leur gabarit, on va avoir des incidences différentes. On tient compte évidemment des impacts cumulatifs avec d'autres projets et, très important dans le cadre de ce projet-ci, on va également étudier les impacts transfrontaliers. Donc ici, on a un projet qui est à proximité directe de la frontière flamande. Évidemment, on ne va pas s'arrêter à la frontière pour étudier les impacts. On va étudier les impacts sur les zones d'habitat côté flamand également. Et on tient compte des spécificités du site. Après, comme je l'ai dit, on va sur place, on fait des relevés, on fait des photos, mais on n'est pas... Moi, j'habite pas Wavre personnellement, et mes collègues, enfin, peut-être certains de mes collègues, oui, mais pas tous en tout cas. Et donc, c'est là que les connaissances des riverains peuvent être un élément important à l'étude d'incidence dont on tient compte. Et donc, je vous invite à nous communiquer vos remarques et suggestions dans les 15 jours par courrier, ou ce soir déjà. Alors, ici, je vais vous présenter quelques outils qu'on utilise dans l'étude d'incidence pour évaluer les impacts. Donc, c'est vraiment des outils, mais ils ne sont pas exhaustifs, entre guillemets. Donc ici, c'est une carte des zones de visibilité, par exemple. Donc on va modéliser sur base du relief et des boisements les zones dans lesquelles un projet est visible ou pas. Donc tout ce qui est zone grise, c'est théoriquement le projet ne sera pas visible. Ce n'est pas du tout le projet de Wavre ici, hein. C'est un exemple d'une ancienne étude d'incidence. Et donc ça nous permet de dire, ben voilà, ici au niveau par exemple de la zone d'habitat, ici, tout ce qui est en rouge, c'est vraiment les noyaux d'habitat. En plein de secteur, les parcs éoliens est théoriquement visible. Alors, on utilise également les photomontages. Donc là, on va sur le terrain au niveau des endroits qui nous semblent les plus propices. Souvent, évidemment, on tient compte des zones habitées, mais pas que. Ça peut être des points de vue remarquables au niveau de sentiers de randonnée ou de promenade. Et là, on fait des photos panoramiques sur le terrain et via un logiciel spécifique, on va venir incruster, entre guillemets, les éoliennes dans le paysage pour avoir un rendu le plus proche possible de la réalité et pouvoir se faire une idée de l'impact du projet. Alors, au niveau du bruit, là, on va modéliser la dispersion du bruit autour d'un projet. Encore une fois, ici, c'est un autre projet. Et donc, on va être capable de dire au niveau de toutes les zones riveraines, par exemple ici, tous les petits points bleus, c'est des maisons, des récepteurs, qu'on appelle ça, où on met. On est capable de prédire le niveau de bruit qui sera émis par le projet et comparer ce niveau de bruit aux normes en vigueur en région wallonne. Et si on constate que ces normes sont potentiellement dépassées sur base des modélisations, on préconise alors généralement des programmes de bridage. Donc, on préconise de faire tourner l'éolienne entre guillemets à une moindre puissance, mais qui va générer également moins de bruit pour respecter ces normes quand c'est possible. Au niveau de l'ombre mouvante, c'est un peu le même principe. Donc, on est capable, au niveau de chaque zone riveraine d'un projet, de prédire quelle sera la durée d'exposition au phénomène d'ombre mouvante. Ça va être une durée qui peut être en nombre d'heures par an, ou en nombre maximum de minutes par jour. Alors, encore une fois, il y a des normes à respecter. En Wallonie, on ne peut pas faire plus de 30 heures d'ombre au niveau d'une habitation et pas plus de 30 minutes par jour. 30 heures par an et 30 minutes par jour. Et voilà, ici, c'est un petit rappel de votre participation, mais je pense qu'on y reviendra. C'est tout pour moi pour l'instant.
Merci. Merci à vous, Tanguy de Jaegereux.
Voilà. Le micro est branché. Tanguy de Jaegereux qui nous présentait donc cette étude d'incidence, comment elle va se passer dans les prochains mois après cette réunion d'information préalable et le délai dont on vous a parlé pour nous envoyer vos observations. Je vais peut-être essayer de garder la télécommande de... Voilà. Elle est là. Voilà. Pour arriver sur la carte parce que c'est quand même ça qui va nous intéresser dans la suite de la soirée. Alors, je vais passer un petit peu. Voilà. La carte, celle-là, va être assez intéressante pour vos questions. Et maintenant, c'est vous qui allez avoir la parole. Moi, je vais vraiment faire le lien entre vous, l'auteur de projet, le bureau d'études, pour tenter de répondre à vos questions ou écouter vos affirmations. Je vous rappelle que tout est enregistré et filmé pour servir de procès-verbal à la soirée. Donc je vous demanderai à chaque fois que vous allez prendre la parole de bien vouloir nous donner vos noms, prénoms et localités pour qu'on sache qui a pris la parole. Et puis on décidera qui de Luminus ou de Certius sera là pour répondre à la question en fonction de la nature de celle-ci. Qui veut démarrer? C'est toujours le plus difficile, c'est la première question. Je viens à vous avec le micro, donc je vais me faire un petit passage à chaque fois pour garder le micro et de mettre du temps. Monsieur, s'il vous plaît.
Bonsoir, Dominique Cassimon, j'habite rue de Rosières à Bierge. J'ai la première question qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir reçu un message entre voisins par WhatsApp du projet. Donc il n'y a eu aucune publicité du projet, on nous annonce ici maintenant 15 jours de délai. Je vois le nombre de personnes qui se trouvent dans la salle, il y a très peu de gens et il y a beaucoup d'habitations autour. Toute la rue de Rosières est déjà très impactée par les bruits. Par les bruits de l'autoroute, il ne faudrait quand même pas le négliger. Quelle a été la publicité qui en a été faite? Et pourquoi, si on veut avoir un projet qui soit ouvert et avec un dialogue, comment se fait-il qu'on n'ait même pas été prévenu?
Oui, on m'entend, oui.
Bon, on va aller chez Luminus. Est-ce qu'il y a une publicité de la soirée qui a été faite? Alors, on a réservé une grande salle, donc on pouvait accueillir beaucoup plus de monde ce soir sans problème. Excusez-moi. Mais quelle publicité a été faite de la soirée pour faire en sorte que les riverains nous rejoignent ce soir?
Oui, donc le démarrage d'un projet, comme on l'a dit déjà, très très cadré, et il fait l'objet de publicité. Donc, on a l'obligation de publier dans un journal local, s'il n'est pas distribué, donc en l'occurrence Le Vlan, ça dépend évidemment des localisations. Il y a des zones ici pour lesquelles Le Vlan, par exemple, n'est pas distribué. Donc on a fait un toute boîte, hein, je pense à des zones, une zone de Rixensart. Mais effectivement, on organise des soirées et des RIP tout au long de l'année. Cette année, l'année passée, je pense qu'on était à une trentaine ou une quarantaine de RIP. Au niveau légal, je peux vous assurer qu'on respecte la prescription des publicités et des publications dans la presse.
Voilà. Bah, si ça répond à la question, je crois, parce que monsieur a dit, est-ce qu'il y a une publicité? La réponse est oui, il y a un cadre légal pour la publicité. Qu'est-ce qui a été fait à Wavre? Est-ce qu'il y a eu plus que Le Vlan? Voilà.
Oui.
Pas tous ensemble, s'il vous plaît.
Oui,
voilà. Vous me permettez, je viens vous trouver, parce que sinon on va rien comprendre et on va pas enregistrer ce que vous dites. Donc tout le monde aura droit à la parole, mais s'il vous plaît, je donne la parole. Vous ne la prenez pas sans que je vous la donne, sinon on va pas se comprendre et ça va servir à rien. Donc s'il y a une précision à faire, je vais prendre un deuxième micro d'ailleurs pour pouvoir le faire et qu'on puisse vous entendre. Donc sur Wavre, est-ce qu'on peut dire ce qui a été fait précisément, s'il vous plaît?
Alors à Wavre, on a publié dans un journal, on publie 15 jours avant, c'est vrai que ça paraît une fois, et après on n'envoie pas un toute boîte. Alors je vais pouvoir vous répondre à ça demain, parce que c'est nos assistantes qui s'occupent de ça, et je ne saurais pas vous dire dans quel journal, là maintenant, on a publié.
Voilà, et donc ça est encadré par une obligation légale, oui, de publier, exactement, et d'inviter. De toute façon, le but... c'est de vous entendre et d'être
et bien d'être sûr, en nombre. On a affiché 4 avis, donc c'est aussi une obligation légale, affiché 4 avis autour du site des éoliennes.
Voilà, j'ai pris numéro 1 en micro, si on peut l'ouvrir.
Uniquement.
Oui, bonsoir, Olivier Brichand, j'habite Stat à Wavre, donc c'est dans le bas de la carte. Alors moi, j'ai vu votre avis, j'ai vu l'avis d'urbanisme qui a été... mi-chaussée de tambour pour les autres endroits. Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis venu, parce que je me demandais où ça allait être. Je voulais vous poser une question, parce que vous nous dites les mâts vont faire entre 200 et 250 mètres, oui, de hauteur. C'est très abstrait. Je suis désolé, moi j'arrive pas à m'imaginer une hauteur de 250 mètres. Alors je voulais vous poser une question toute bête. Par rapport aux éoliennes qui sont à la mer du Nord, en face de Zeebrugge, ça fait quelle hauteur? Parce que
les éoliennes qu'il y a en mer sont beaucoup plus hautes. Évidemment, elles sont beaucoup plus loin. Mais ici, pour vous donner une idée, l'antenne de la RTB, que vous n'avez évidemment pas loupée, elle fait 245 mètres.
Ah bah voilà. Au moins, ça donne une idée de
oui, effectivement, c'est un piquet. C'est un piquet. Et puis, ouais, vous aurez Mais on va introduire donc une demande pour 250 mètres maximum. Bon, là, après, on aura un permis, si on a un permis, bien sûr, on aura un permis pour une hauteur de 200 à 250, mais ce sera de cet ordre-là. Et l'antenne fait 245. Aujourd'hui, les éoliennes que vous voyez au bord des autoroutes font entre 150 et 200 mètres.
C'est vrai que par exemple, celles de Perouet qui ont fait l'objet d'un repowering récemment, enfin il y a une année, elles font 180 mètres. Mais c'est vrai que nous, pour voir passer beaucoup de projets, la tendance est quand même vers une augmentation des tailles, et même 180 mètres, ça devient de moins en moins fréquent. Les projets maintenant, on est plus autour de 200-250 mètres pour les éoliennes. Mais il faut savoir, souvent, il faut aussi savoir que le rotor est plus important, donc la nacelle n'est pas toujours vraiment à la plus haute, mais les rotors, donc le diamètre des pales, la longueur des pales est plus importante. Donc on
la hauteur qu'on donne, c'est la hauteur au sommet de la pale.
La hauteur de 150 mètres, c'est vraiment en bout de pale, donc c'est 140 mètres, plus des fois des rotors qui font jusqu'à des pales qui font jusqu'à 80 mètres. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On a des éoliennes maintenant qui ont des rotors beaucoup plus importants.
Et techniquement, pour rester sur le dossier, on est sur une nouvelle génération. Donc les éoliennes qu'on voit dans la région, elles sont plus petites pour le moment que celles qui sont en projet d'être installées.
Oui, effectivement. Hein. Donc pour l'instant, il y a les éoliennes qui sont habituellement octroyées, qui ont été octroyées ces 15 dernières années, montées à 150, 180 mètres. Ici, on a un nouveau cadre de référence, donc qui a fait l'objet d'une modification l'année passée, où l'autorité compétente préconise d'aller plus haut pour permettre de diminuer le nombre d'éoliennes, mais de maximaliser la production. Donc on va avoir des éoliennes plus hautes, mais qui produisent beaucoup plus. Hein. Une éolienne de 150 mètres ou de 180 mètres va produire de l'ordre de 6 à 7 gigawattheures. Ici, on a des productions où on va plutôt être entre 16 et 20 gigawattheures. Donc oui, effectivement, ça va changer un petit peu dans le paysage wallon, alors qu'en Flandre, on est avec des éoliennes beaucoup plus hautes depuis bien plus longtemps.
Alors, autre question, monsieur, vos noms, prénoms et localités.
Oui, bonjour, Pierre Taquet de Wavre-Centre, disons. Vous avez montré une étude de visibilité avec les zones assurées en rouge pour un autre cas. Si vous aviez pris la peine d'aller sur Google Earth et de déjà matérialiser ces deux éoliennes à 250 plus pales, 300 mètres, là sur les hauteurs de stade, disons, vous verriez que toute la ville de Wavre est quasiment en rouge. Alors, il y a quelque temps, il y avait une étude d'incidence pour un hôtel de l'Étoile qui faisait 100 mètres. Et déjà là, ça faisait un coup de poing dans l'œil. Je m'excuse. Celle-ci, ce projet-ci semble encore plus incongru dans le paysage wavrien. Et je m'étonne que vous n'ayez pas au moins visualisé, esquissé l'impact visuel de ce projet sur la ville de Wavre dans son ensemble.
Alors, c'est une observation, c'est peut-être pour le bureau d'études, ouais. Tanguy de Hergueureux, pourquoi on n'a pas déjà, fait l'étude avant l'étude, quoi, c'est
ouais,
ça?
Oui, tout à fait. Donc, ici, c'est vrai qu'on est vraiment à la phase d'avant-projet. Les modèles d'éoliennes ne sont pas encore arrêtés à 100%. Nous, on n'a pas encore réalisé ces modélisations, mais elles seront faites pendant la phase d'étude qui va suivre. Et je peux vous assurer qu'il y aura une étude très détaillée des impacts visuels depuis Wavre, le territoire communal de Wavre et les territoires communaux voisins. Mais effectivement, une éolienne de cette taille, à l'échelle d'une commune, il y a beaucoup de zones de visibilité généralement.
J'ai entendu que monsieur disait 280 mètres, on est oui, bien, c'est 250 mètres au sommet de la pale. Hein. Non, c'est le sommet de la pale, voilà. Maximum. Autre question, sauf s'il y a une précision, parce que je voyais qu'on prenait un micro du côté de Luminus.
C'était pour préciser ce D'accord. que vous venez de préciser.
Monsieur.
Oui, bonsoir, Eric Lavens, j'habite la Langelaestraat à Ottenburg et je suis aussi là pour le Dorpsstraat de Ottenburg. Voilà, le site est assez, sensible entre Ottenburg et Wavre puisqu'il y a eu 25 ans la lutte contre l'extension du zoning dans le cadre de certaines transactions ont été conclues par la suite. Reconnaissant que l'attente au site dans son ensemble avait atteint son maximum avec le zoning. Ceci se situe exactement sur la limite avec Otambourg. Si j'ai bien vu, pour le numéro 1, nous sommes à même pas 200 mètres, quoique ce sont 50 mètres à voir, si je reconnais bien les champs. Et donc, j'ai quelques questions concernant cette relation entre les deux régions. Les nuisances, vous me dites qu'ils seront examinés sous le régime de la législation wallonne, mais les nuisances sur le territoire de la région flamande devront également confirmer aux exigences de la législation flamande. Normalement, s'il y a une différence dans le droit international, c'est les règles les plus strictes qui l'emportent. Deuxièmement, on a également conclu, suite à cette lutte en 1995, qui a duré jusqu'en 2005, certains accords. Donc, d'abord, il y avait la reconnaissance que l'atteinte au site avait atteint son maximum. Il y a un point de vue qui a été installé vers la vallée de Billante, qui, selon moi, sera fort impacté par l'éolienne numéro 1. Mais... J'ai perdu mon fil, là.
Vous parliez, oui, de l'impact paysager sur l'éolienne numéro 1.
Alors, vous avez montré des cartes où, par exemple, la Hasselheidestraat s'était marquée comme une rue qui n'était que des maisons isolées, alors que c'est une rue qui maintenant est habitée dans son ensemble. Donc, il y aura un effort à faire pour reconnaître la situation sur le sol flamand. Et quel est le plan pour insérer dans toute cette discussion la commune d'Otambourg et celle de Huldenberg et puis celle de Tombeek et de Terlanen et Overijs. Je sais que Overijs est très impliqué aussi avec Tombeek et Terlanen. C'est un peu l'ensemble de mes remarques que je veux faire.
On va peut-être demander un commentaire parce que là on parle de clauses juridiques en fait par rapport au fait qu'on est à la limite entre deux régions avec des législations qui sont peut-être différentes. Est-ce que au niveau du bureau d'études ou de chez Luminus, on sait ce qui s'applique, monsieur, essayez de dire qu'en fait on devrait tenir compte de la législation flamande sur le territoire flamand alors qu'on est avec un projet éolien qui est en région wallonne. Qu'en est-il exactement par rapport à cela?
C'est une bonne remarque hein, et ça vient souvent pour les projets qui sont comme ça à la frontière. Mais l'établissement étant situé en région wallonne, c'est effectivement la législation wallonne qui s'applique au niveau des normes aussi, par exemple les normes acoustiques, les normes d'ombre mouvante. Après, généralement, dans l'étude d'incidence, nous on fait de manière indicative, parce que ce ne sera pas ce qui est légalement requis, mais on étudie quand même de manière indicative les normes flamandes qui peuvent être différentes, notamment pour le bruit ou l'ombre, etc.
Vous avez mesuré, c'est une grosse différence entre
si on applique une législation ou l'autre. Ça apparaîtra dans l'étude. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des précédents, notamment du côté de Bassan, si je ne me trompe pas, où le Conseil d'État a un peu tranché ces questions et qui a bien notifié qu'un établissement en région wallonne, même s'il y a des impacts sur la Flandre, devait respecter la législation et les normes wallonnes.
Alors, si je puis ajouter un élément, donc bien que ce soit la législation wallonne qui sera suivie, la commune voisine du côté flamand fait partie des communes concernées et donc sera également consultée lors de la demande de permis, bien qu'elle ne soit pas dans la même région. Donc, j'ai pas le listing des communes concernées ici, mais l'ensemble des communes susceptibles d'être concernées par le projet, selon le fonctionnaire, sont bien consultés lors de la demande de permis.
Oui, si on donne la localisation pour le courrier, notamment à l'adresse du collège échevinal de Wavre, c'est parce que c'est toujours la commune qui abrite le projet au maximum, quand c'est sur plusieurs communes par exemple, mais c'est pas pour ça que les communes voisines ne sont pas évidemment consultées, vous le confirmez chez
Luminus. Oui, tout à fait, hein. Je confirme que les communes ont été informées du projet, et par ailleurs, j'aimerais bien ajouter par rapport aux contraintes que les contraintes aux distances d'habitat sont plus contraignantes en Wallonie qu'en Flandre, mais qu'on fera quand même en complément une étude sur la zone flamande.
Voilà. Autre question, monsieur, vos nom, prénom, localité.
Alors, Vandenhoek Yves, et j'habite également à Ottenburg, donc dans la région flamande. Et là, je rejoins un petit peu notre voisin ici, avec quelques questions. J'aimerais savoir, donc, il y a deux éoliennes. On constate enfin maintenant où elles seront où elles devraient être implémentées. Et donc, on parle en total de 38 millions de kilowatts au point de vue production. J'aimerais savoir, au niveau de l'éolienne 1, ce que ça représente et la taille par rapport à l'éolienne 2, parce que c'est l'éolienne 1 qui me préoccupe principalement, à savoir, à quelle distance est-elle de la frontière flamande ? 2. La rue Asselet-Destraat, évoquée précédemment, n'est pas très très loin et il y a quand même plusieurs habitations. 3. Au niveau des ombres portées, il faut savoir que tenant compte de l'orientation du soleil, à nouveau, ce seront les habitants de Flandre qui seront pénalisés par ce phénomène.
Alors ici, quand on parle de l'éolienne numéro 1, on est d'accord que c'est celle qui est le plus au nord du plan. Hein,
oui.
D'accord, on est bien d'accord.
Sur la gauche. En résumé, pour moi, l'impact négatif pour les habitants de Wallonie, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'impact négatif. Mais par contre, pour les habitants de Flandre et de proximité, l'impact sera très significatif.
Alors là, c'est une orientation qu'on peut peut-être souffler au bureau d'études, puisque finalement, les questions que monsieur pose, c'est l'étude qui va devoir y répondre. Tanguy de Jagereux, on peut expliquer ça ?
Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, nous, on va étudier, peu importe qu'un village se trouve en Flandre ou Wallonie, on étudiera l'impact de la même manière. Et effectivement, si l'étude doit faire ressortir que l'impact principal du projet se trouve au niveau d'Ottenburg, c'est ce que l'étude démontrera. Mais ce sera l'étude de le déterminer. À ce stade, c'est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Mais,
voilà. Mais c'est à ça que se faire aussi une soirée comme celle-ci, c'est de donner votre avis pour qu'on puisse orienter l'étude d'incidence et répondre à ce que vous aurez dit ce soir. C'est pour ça que tout est enregistré. Je vous remercie pour votre patience. Je regarde les mains qui se lèvent et je vais passer chez vous quoi qu'il arrive.
Voilà, je peux juste compléter la première question qui était de savoir quelle différence entre les deux éoliennes.
Pardon,
quelle
c'est
différence
vrai.
De production. Les deux éoliennes seront identiques. Elles n'auront pas d'impact fort l'une sur l'autre, hein, parce que bon, les vents dominants, c'est sud-ouest, hein, donc elles seront impactées en même temps par le vent. Donc elles vont avoir une production tout à fait identique. Sauf bridage indépendant, plus pour l'une que pour l'autre. Donc là, ça se fera à l'issue de l'étude d'incidence.
Voilà, une autre question, monsieur.
Bonjour, Mathieu Lebem. Alors, je vis Hasselheidestraat, la fameuse dont on vient de parler. On est à 560 mètres de la première éolienne. On est sur un plateau haut. Donc, je vous invite vraiment à venir vers nous parce qu'on voit totalement le sol. Donc, nous, on aura 200-250 mètres de visibilité. Donc, j'espère que vous allez vraiment tenir votre parole vers la Flandre et Tanguy. Je suis désolé, j'ai oublié de votre nom de famille.
De Jagereux.
Voilà, que vous viendrez bien chez nous. Moi, j'ai une autre question. Donc, en plus de ça, donc, on est les plus exposés. En effet, on n'est pas isolés. J'ai des voisins à gauche, à droite. Donc, la définition m'amuserait. Ce qui m'étonne, c'est deux éoliennes. Pourquoi gâcher le paysage pour deux éoliennes ? J'ai l'impression que les projets, normalement, sont plutôt 6, 7, 8 éoliennes, quitte à rendre les choses moches, autant le faire pour plus. Pourquoi venir juste à ces deux endroits qui touchent beaucoup de monde pour, en fait, ce qui peut paraître dans vos chiffres, un gros chiffre, que 37 millions, c'est beaucoup, c'est 6 mégawatts, c'est pas énorme. Est-ce que vous comptez développer plus le projet ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres terrains ? Qu'est-ce qui justifie, en fait, tellement de problèmes pour une si petite production ?
Ouais, question pertinente, parce que c'est vrai que les projets, d'habitude, on est, comme monsieur le dit, sur 4, 5, 6 éoliennes, même de cette puissance-là. Ici, on est sur des contraintes très particulières. C'est ça qui justifie peut-être le fait qu'on n'en ait que deux dans ce projet ?
Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si on a l'occasion de revenir sur la carte des contraintes vite fait, mais évidemment, ici, il y avait, avec les contraintes locales, la place pour implanter deux éoliennes. Ici, il n'y aura pas de possibilité d'extension, même dans le futur, et le nombre d'éoliennes qui est de 2 est le maximum qu'on puisse implanter ici. Ça, c'est une chose. Et alors, pardon ?
Vous signez aujourd'hui qu'il n'y aura jamais d'éoliennes. Attention, parce que c'est en plus,
on peut jamais. Facile. Comme l'a très bien dit mon collègue, on ne peut jamais dire jamais, évidemment, voilà, mais voilà, au vu voilà. des contraintes oui, qui sont présentées ici, on ne peut pas, à l'heure actuelle de la législation, mettre une troisième machine.
Et, mais alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans votre étude d'incidence, et je comprends bien l'impact, j'aimerais voir le lien entre la production maximale que vous montrez, déjà la réaliste, ça c'est une première chose, quand on aura du bridé à cause de toutes les conséquences de votre étude. En fait, est-ce que vous regardez le lien entre impact qu'on va avoir et production, qui avec deuxième LN me paraît vraiment basse, avec un impact haut pour beaucoup de monde. Comment est-ce que vous quantifiez ça ?
Alors, cette question, je la laisserai peut-être au bureau d'études juste après, juste pour préciser un peu la réponse à votre question au sujet de uniquement deux éoliennes. Ici, vous avez raison de le souligner, le cadre de référence en Wallonie vise plutôt à privilégier les projets de minimum 4 éoliennes pour justement, comme vous dites, optimiser le potentiel venteux de la zone. Ici, il s'avère qu'on ne peut en mettre que 2, mais ce même cadre de référence encourage aussi ce qu'on appelle le regroupement des infrastructures. Or ici, avec la présence d'un zoning industriel, avec la proximité d'un axe qu'est la nationale, voilà, le regroupement de ces infrastructures rend le projet pertinent, malgré que évidemment il soit réduit à 2 éoliennes et pas, plus le raccordement.
Si je comprends votre point, mais il y a des bâtiments bas, là vous montez. Donc je comprends ce que vous dites, faites-moi des éoliennes à 15 mètres, on n'y en parle pas. Mais là, je veux dire, globalement, c'est politique comme réponse. Oui, il y a un regroupement, mais l'impact est totalement différent que GSK. Enfin, pour citer GSK et tout le zoning, on ne parle pas du tout de la même chose. Là, vous allez monter à la verticale sur 200-250 mètres. Quel est le bâtiment le plus haut ? On a parlé de l'antenne qui est une tige. Déjà, c'est pas top, mais voilà. Là, vous imaginez que vous allez amener du mouvement à 200-250 mètres. C'est une notion qui est totalement illogique.
Alors, c'est l'avis de monsieur. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Parce qu'on avait dit qu'on aurait l'avis de Cersus par rapport justement à ces contraintes.
Pour rebondir juste là-dessus, c'est vrai que ce regroupement des infrastructures qui est vraiment une volonté politique, hein, pas se cacher, mais il y a l'impact visuel, ça évidemment c'est rare d'avoir des infrastructures de 250 mètres, on y convient. Mais après il y a les autres nuisances potentielles, le bruit. Effectivement, aller implanter une éolienne en rase campagne où il n'y a pas un bruit et dans ou à côté d'un zoning, l'impact là, pour moi en tout cas, enfin même pas pour moi scientifiquement, et les mesures de bruit le montrent généralement, il y a quand même un intérêt de regrouper ces infrastructures. Mais monsieur, dans certaines, ça dépend des activités du zoning.
Par contre,
si c'est comme la nuit, on fait des mesures de bruit la nuit aussi. Donc,
monsieur a dit quelque chose d'intéressant, c'est là on a quelque chose qui est assez plat, enfin en tout cas on est des hauteurs, et puis on arrive sur des 200-250 mètres au niveau du regroupement des infrastructures. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui est pris en compte, parce que c'est pas le même genre de nuisance, la même portée peut-être ? C'est aussi l'étude d'incidence qui pourra répondre à ça ?
Et c'est vrai que dans l'étude d'incidence, on est particulièrement attentif à ce qu'on appelle justement dans ce service de recommandation d'infrastructure des points. Est-ce qu'il y a déjà des points d'appel anthropiques? On a parlé d'antennes, mais dans certains cas, ça peut être des lignes haute tension qui peuvent également, où là, il y a des fois un intérêt de regrouper les nuisances visuelles, entre guillemets. Et pour revenir sur la question de ce que ça vaut la peine, etc., ça, entre guillemets, l'étude d'incidence, nous, on a un rôle assez factuel, donc on va donner les estimations de production, on va donner les impacts, et après, cette balance des enjeux entre est-ce que les impacts valent la production électrique, ça a l'autorité compétente de le faire, entre guillemets. C'est eux qui font cette balance des intérêts et des enjeux d'un projet.
Oui, et puis j'ajouterais qu'effectivement, s'il y a un bridage intempestif, il n'y aura plus de bénéfices, quoi. Donc, financièrement, ce sera pas viable. Donc, effectivement, si, après l'étude d'incidence, on nous dit, il y a un impact ombragé fort, il y a du bruit, il faut brider énormément, je pense qu'on n'attendra pas l'avis du fonctionnaire pour dire, on arrête là.
Donc en fait, il faut bien savoir que tous les projets que pour lesquels vous faites une réunion comme celle de ce soir, une RIP, une réunion d'information préalable, n'ont pas un aboutissement favorable à 100%, évidemment.
Non, je veux dire qu'il n'y en a pas une sur deux. Donc.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore au stade du projet, hein, quand on doit tout étudier et vous pouvez donner des pistes pour cela. Monsieur, c'est à votre tour.
Oui, bonsoir, Adrien Meus, j'habite quartier de Stade aussi. J'avais juste une question. Est-ce qu'on a une idée de la consommation électrique du zoning, juste pour avoir une idée du rapport de force entre deux éoliennes et la consommation totale du, du zoning pour avoir cette notion de coût-bénéfice de l'implantation de deux éoliennes. Est-ce que WAVE n'a pas intérêt à faire d'autres projets plus structurants au niveau de sa fourniture électrique? Merci.
L'idée ici, c'est vraiment de travailler dans la transition énergétique, donc c'est de produire une énergie qui ne sera pas captée, qui ne sera pas produite par une turbine gaz-vapeur. Donc c'est vraiment pour améliorer l'empreinte carbone. Je ne connais pas la consommation du zoning. Je ne la connais pas, mais je pense que elle est bien supérieure, oui, à ce qui va être produit.
Alors c'est global évidemment sur les formes, mais par contre ici il y a comme la particularité de se raccorder directement chez GSK, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que toute l'électricité produite va être consommée directement sur place.
Elle sera toute consommée.
Ce qui est tout à fait différent d'autres projets éoliens en général.
Oui. Oui.
Alors monsieur.
Non, je veux prendre. Je suis grand, mais je suis un grand garçon. Mais bah alors non, si je suis pas libre d'avoir le micro. Non, alors. Je vais me lever gentiment, je vais vous demander le micro, parce que je pense que je peux...
Mais monsieur, je vais vous laisser parler, mais la règle... Mais c'est, monsieur, c'est moi qui fixe les règles. Je suis le modérateur, et je suis le maître du temps. Mais je suis indépendant, donc... Oui, mais c'est obligatoire. Mais monsieur, allez-y.
Je ne veux pas faire d'esclandre, je voudrais juste pouvoir exprimer une première chose. D'abord, j'avais envie de vous remercier de faire une séance d'information, mais je n'ai pas envie de vous remercier parce que je pense que la manière dont nous avons appris l'information de venir ici, donc moi je suis dans le quartier Champs, je m'appelle Pierre Franquin, je pense que je vous ai envoyé un mail à l'un ou l'autre pour avoir une idée de l'implémentation d'une des deux éoliennes. Je pense qu'on a raté l'occasion ici, dans votre présentation, d'être le plus transparent possible. Premièrement, par rapport à l'information de cette réunion, on n'a prévenu personne réellement et pas les gens incidents. On a raté l'occasion aussi de faire un travail d'information correct et cohérent entre deux régions. Et on sait très bien qu'en Belgique, entre les francophones et flamands, c'est difficile. Nous, en termes de population, on s'entend très bien avec nos amis flamands. Et quand je vois l'implémentation ici, j'ai envie d'être avec eux parce que, objectivement, je serai de leur côté. Je refuserai complètement ce projet. Je trouve que c'est un petit peu limite. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les cartes que vous avez produites, puisque les cartes que vous produisez encore là maintenant, vous ne montrez pas tous les quartiers de Tambour. Ici, on le voit, mais on voit à peine. Mais sur l'autre photo, vous mettez en plus grand, vous montrez que le zoning. Comme ça, ça donne un peu l'impression que c'est pas grave, c'est une zone d'activité, c'est pas très important. Ce qui m'intéresse, moi, comme question, c'est je vois que la première éolienne que vous avez mise est juste à côté de chez GSK. Alors premièrement, j'imagine que GSK est au courant, vous n'en avez pas parlé, si ce n'est que vous allez dire que vous allez vous raccorder chez GSK.
Oui, j'en ai parlé.
Voilà, j'imagine bien. Je suppose d'ailleurs que le projet doit être préfinancé ou financé en partie aussi par GSK, ou en tout cas il doit avoir une partie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les grandes entreprises doivent verdir aussi, amener plus de sustainable, comme on dit bien dans leur projet de stratégie. Donc ma question ici est de savoir... Quid si GSK s'en va dans 5 ans, 10 ans, parce que même si aujourd'hui c'est florissant, ils sont toujours en Belgique, on sait tous qu'on est dans une mondialisation, il n'est pas impossible que GSK décide de partir, qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie qui va rentrer dans GSK, uniquement GSK, puisque vous ne raccordez pas chez Aurès et autres. Ça c'est une autre chose. Et bien avant ça, vous me dites qu'il y a un projet sur deux qui ne se fait pas, je pense que celui-ci, s'il peut ne pas se faire, il ne se fera pas, ça je peux vous le dire, parce que je me battrai pour...
Voilà, et c'est tout à votre droit, évidemment, et c'est pour le donner. Alors, c'est pas du tout pour brider que je tiens le micro, monsieur. Je vous explique. Je vous explique.
Non, mais je vais le dire, sinon je le crie, je m'en fous. Je veux juste dire une chose, c'est que je pense qu'on est un peu enfantisé ici. Je pense que monsieur fait très bien son boulot, vous êtes un animateur de jeux télévisés parfait, exceptionnel, vous faites très bien votre boulot, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça, on a des grands garçons.
C'est juste pour que tout le monde puisse s'exprimer, parce que si on n'a que des gens comme vous qui veulent prendre le micro, le problème, attendez, je vous explique, c'est qu'on essaye que tout le monde puisse s'exprimer, et donc je suis là pour ça, c'est que pour les gens se exposent des avis comme le vôtre, qu'on ait des réponses, et je ne suis pas le dernier à aller plus loin si j'estime que la réponse n'est pas trouvée. Voilà, c'est mon rôle. Monsieur, c'est comme ça que la procédure est prévue. Donc, elle est prévue, il doit y avoir un modérateur dans une soirée comme celle-ci. C'est une obligation, et c'est pour ça que je suis là. Et je vous remercie de respecter les règles du jeu, puisque finalement, il y a un cadre légal qui est là, on se parle, on essaye qu'il y ait des questions, des affirmations et des réponses, et la réponse aux questions de monsieur, c'est maintenant.
Pour moi, je respecte évidemment votre prise de position. Et pour répondre à votre question, à savoir qu'est-ce qu'on va faire si GSK part dans 5 ans, mais à ce moment-là, clairement, si les éoliennes sont là, on tire un câble jusqu'à une ligne Elia où on se connectera sur Aurès à ce moment-là, même si on doit brider, quoique les plans à moyen et long terme d'Aurès et d'Elia vise des capacités beaucoup plus importantes. Donc il est possible que dans 5 à 10 ans, on puisse connecter ces machines sur le réseau.
Voilà, donc si jamais GSK partait comme monsieur pouvait,
oui, exactement.
Voilà le plan qu'on avait évoqué. Monsieur, une question.
Voilà, Didier Vandenbranden, j'habite rue de Rosière, donc je suis a priori pas particulièrement concerné parce que cette implantation ne va pas me déranger, mais effectivement, je pense à nos amis flamands qui sont directement impactés. Et on a vraiment l'impression, quand on voit ces deux éoliennes, que ces deux éoliennes ont été dessinées pour satisfaire GSK. Et je me pose beaucoup de questions à ce sujet.
Voilà, quels sont les liens finalement avec GSK ? Est-ce que c'est télécommandé par GSK ? Est-ce que c'est pour verdir peut-être les objectifs environnementaux de GSK que ce projet existe ? C'est en substance ce que monsieur vient de demander. C'était aussi si vous entendez dans la question précédente.
Mais on a parlé de contraintes, d'obligations. Elles sont là parce que à part ces endroits-là, c'est vraiment une zone spécifiquement éligible. Je ne peux pas les mettre à un endroit où il y a du verre, ici en bas. On est loin de GSK. Non, voilà, c'est une zone éligible. On ne sait pas en mettre plus parce qu'on doit respecter une certaine distance entre les machines. GSK n'a rien payé, GSK n'a rien versé. Je veux dire, si GSK n'est pas là et que je ne sais pas me connecter, je ne le ferai peut-être pas. Luminus, pardon. Mais non, enfin voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Est-ce que vous avez une réponse à votre question?
C'est un site éligible, il n'y a pas beaucoup de place pour en mettre ailleurs.
Oui, mais donc, comme on a dit précédemment, en général, le genre de projet... Alors, d'abord, c'est sûr, en ce qui concerne les éoliennes, personne n'a envie de voir des éoliennes dans son jardin. Hein, ça, c'est sûr. Mais quand on voit cette implantation, je vois l'éolienne de droite, là. Vous mettez-en 4, alors. Hein. Mettez-en 4 à droite de la deuxième, là, sur la droite. Vos projets, en général, c'est 4 à 6 éoliennes. Pourquoi alors faire, si vous ne pouvez pas le faire, de nouveau, pourquoi faire seulement 2 éoliennes?
Est-ce que le but, c'est coûte que coûte passer des éoliennes là où c'est possible, oui, finalement?
C'est coûte que coûte les placer là où c'est possible. On a un impératif foncier. Donc au niveau foncier, on n'a peut-être pas eu l'accord pour en mettre une troisième. Et cela dit, 2 éoliennes, elles vont produire... vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Je ne vois pas un fonctionnaire refuser un projet qui va produire quasi 40 gigawattheures. Hein.
Si jamais il rentrait
je ne parle que du critère productible.
D'accord.
C'est tout. S'il devait se baser
merci pour la précision parce qu'il y avait des réactions autour de moi. Sûr. Monsieur, vos noms, prénoms, localité.
Donc Jean Gossens, j'habite le centre de Wavre. Donc je ne suis pas directement connecté par ce problème, mais je me pose une question préalable. Pourquoi faire toute cette démarche maintenant, alors que vous avez dit que vous n'étiez pas sûr d'avoir le feu vert de la défense sur la problématique de Beauvechain, en se disant, si Beauvechain vous dit stop, non, c'est pas possible, ben, tout tombe à l'eau. Donc, est-ce que c'était pas intéressant de d'abord avoir une garantie de la part de la défense d'avoir un feu vert avant de lancer la suite des opérations? Voilà.
Est-ce que cette réunion n'arrive pas un petit peu tôt, finalement, par rapport à ces contacts préalables avec la Défense nationale?
Je vous avoue que cette réunion et le fait de lancer un projet va quand même pousser la Défense à nous écouter et puis à faire un effort s'il y a un effort à faire, quoi. Mais non, ça n'arrive pas tôt. Non, pas trop tôt. On sera en contact dès qu'il y aura une nouvelle ministre, un nouveau ministre. On reprendra contact. Ils ont ouvert déjà certaines zones, pas sur Beauvechain, mais ailleurs. Sur Beauvechain, on a des zones où de parachutage qui ont été ouvertes. Donc, il y a une acceptation. Les radars, aujourd'hui, sont équipés de nouvelles technologies avec des filtres qui permettent d'implémenter la qualité du radar et de ne pas être perturbé. Les ondes ne seraient pas perturbées par les éoliennes. Donc, on croit en ce projet. Et si on n'a pas l'accord maintenant, on pense l'avoir durant cette année.
Vous croyez que la Défense va devoir revoir ses plans pour pouvoir ouvrir à ce genre de production?
Oui.
D'accord.
Oui.
Je vais aller là-bas au bout, je reviens, je fais le tour, pas de problème, vous aurez la parole. Là, on revient sur des personnes qui ont déjà pris la parole, mais c'est pas grave. S'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas encore pris, je leur donnerai la priorité, évidemment.
Par rapport à ce que je viens d'entendre, Éric Lavergne, maintenant, si le prochain ministre de la Défense est flamand, autant bourre est bon.
Voilà, je crois que ça n'appelle pas de commentaires, mais on a tout à fait le droit de donner un simple avis. Ça ne doit pas toujours être commenté. Je crois que monsieur avait levé la main. Non, c'est monsieur. Voilà. Venez. Attendez.
Bonjour. Bonjour. On parle de la Défense, mais n'oubliez pas non plus l'aviation civile, parce qu'il y a une balise là à Autembourg. Il y a beaucoup d'avions qui viennent droit sur cette balise. Pour peu qu'ils aient un problème mécanique, ils peuvent se retrouver à 300 mètres et pas à 800 ou à 1000 mètres comme prévu. Et donc, la régie des voies aériennes est aussi concernée par le dossier, et bien d'autres d'ailleurs.
Oui, est-ce que la DGTA, Tanguy de Hargureux, la DGTA va être consultée aussi, pas que la Défense, dans ce dossier?
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a la DGTA, qui est la Direction Générale de Transport Aérien du SPF, qui, entre guillemets, chapeaute un peu les avis de la Défense, mais également de SKYS, qui gère l'aviation civile, qui sont consultés. Généralement en phase d'avant-projet pour remettre un avis sur le dossier.
Et donc le fait d'avoir une balise, parce que ça c'est quelque chose qu'on apprend peut-être maintenant.
Oui, si jamais c'est incompatible pour SKYS, ils ne manqueront pas de le dire. Mais après, je n'ai pas plus de précision, peut-être que le ministre s'est déjà
renseigné. À ce stade-ci en tout cas.
Oui, et soyons clairs, si SKYS émet ou la Défense décide que non, c'est non, aucune éolienne ne sera construite. On ne construit pas des éoliennes en mode pirate en espérant que ça reste debout. Évidemment, toutes les instances aéronautiques sont consultées et le projet se fait uniquement si les autorisations sont obtenues, bien sûr.
Très bien. Nouvelle question d'une nouvelle personne.
Dominique Cassiman, rue de Rosière. Vous avez conscience qu'il y a aussi un pipeline de l'OTAN qui passe juste à côté, qui passe d'ailleurs principalement déjà près de l'autoroute et rue de Rosière et qui la traverse, où on a des contraintes même pour nos jardins de ne pas pouvoir implémenter quoi que ce soit dans le sol. Même pour une haie, on a dû passer à côté. Donc, gardez quand même à l'esprit qu'il y a un pipeline qui passe et qui passe chez GSK juste à côté.
C'est la ligne jaune qui serait sur le plan apparemment.
Je ne suis pas persuadé que la Défense va vous autoriser à passer au-dessus. De plus, il y a des vols réguliers au-dessus du pipeline avec des détections pour voir le contrôle du pipeline, pour voir sa fluidité.
Mais voilà, pour répondre, c'est typiquement ce à quoi sert cette réunion d'information, non seulement pour informer les riverains du projet, mais également pour que les riverains puissent également nous tenir informés de ce genre d'éléments qui, évidemment, nous intéressent beaucoup et sera un point qu'on prendra en compte lors de la consultation. Bref, on ne connaît pas tout sur le sol wallon avant d'avoir consulté les instances. Et je reviens un peu à la remarque qu'avait fait monsieur au sujet des droits potentiels qu'on doit obtenir de la Défense. Il faut savoir que la Défense, on n'a pas de relation privilégiée avec cette dernière. Quand on arrive devant elle pour lui présenter un projet, il faut que celui-ci soit abouti. Parce que elle prend déjà de son temps pour nous recevoir. Si on arrive avec un projet à moitié abouti, qu'on leur dit ouais voilà, on aimerait mettre deux éoliennes là et là, puis après qu'on fait la réunion d'information préalable, qu'on reçoit des informations qui n'étaient pas spécialement publiques, qu'on doit ensuite modifier le projet, ça passera pas ensuite avec un deuxième coup de téléphone. Excusez-moi colonel, est-ce que je peux vous revoir pour modifier le projet? Voilà, c'est aussi à ça que sert cette réunion d'information. Donc je vous encourage, si vous avez d'autres informations.
Donc elle est bilatérale quelque part, c'est juste de l'information, c'est vraiment de l'échange.
Tout à fait.
Juste ajouter, parce que je l'ai vécu, et très mal vécu d'ailleurs, le pipeline de l'OTAN qui passe dans nos rues, avant de commencer à faire les plans de jardin qui devaient faire des modifications et qui ont d'ailleurs donné lieu à des recours à la région, on a demandé à la personne qui est attitrée à l'OTAN de passer pour voir s'il y avait une possibilité de faire quelque chose. Je pense que vous pourriez déjà le faire avant d'arriver avec votre projet qui va vous coûter quand même aussi beaucoup d'argent. Avant ça, vous pouvez déjà demander une séance d'information. Les gens sont là, ils vont déjà vous dire si c'est oui ou non.
Et pour revenir sur le papier annotant, c'est que c'est des choses qu'on rencontre assez souvent, parce que ces papiers annotants vont traverser tout le territoire wallon, et il y a déjà eu des projets éoliens à proximité de ce type de papiers annotants. Il y a des distances de sécurité à respecter, souvent qui varient entre 100-150 mètres, en fonction des modèles d'éoliennes, du poids des éoliennes, etc. Tout ça sera étudié et calculé dans l'étude d'incidence, et in fine, malgré... L'étude d'incidence va évaluer si les distances de sécurité sont respectées ou pas, mais c'est le temps qui remet un avis, enfin le temps via la défense, généralement, sur la compatibilité technique du projet avec ces pipelines.
Madame.
Mon nom est Annabelle Mignot, j'habite à Autembourg. J'ai justement une question, c'est quoi la durée de vie d'un éolien et qu'est-ce qui se passe après avec l'éolien?
Là, on se projette un peu, on va dans le démembrement des éoliennes qui ne sont pas encore installées. Comment ça se passe en fin de vie? Donc on est quoi, dans les 25-30 ans, c'est ça plus ou moins?
Oui, exactement, exactement. Donc en fin de vie, on va démanteler complètement l'éolienne et sa fondation. Et alors pour info, le développeur, quel qu'il soit, hein, qu'il soit Luminus ou qu'il soit un tout petit développeur, a l'obligation de verser une garantie. Donc, qui est défini par la région wallonne, qui va varier suivant le type de machine. Ça va de 200 à 300 000 euros en fonds de garantie au cas où le promoteur ou le développeur est disparu. Donc, on a encore une somme pour le démantèlement global de l'éolienne.
Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on enlève? Parce que c'est souvent la question qui arrive après. Donc on enlève, autant anticiper.
Ben on enlève le mât, l'éolienne, la fondation. Voilà.
Totalement.
La fondation, on l'enlève jusqu'en bas. Ce qu'on va laisser, c'est les pieux. Donc si, dépendant du sol, hein, on peut utiliser des pieux. Et les pieux. Donc ils vont aller jusque 20 mètres sous terre et on va faire plus de dégâts en les retirant qu'en les laissant.
Monsieur. Oui, Régnier Sneyers, j'habite quartier de Stadt et je viens d'acheter un champ à 300 mètres de votre éolienne numéro 2. Il y a un permis d'urbanisme qui a été octroyé pour la construction d'une bergerie. J'ai entendu que vous parliez tout à l'heure dans les contraintes de ferme. Moi, j'aurai mon bétail, mes moutons qui seront juste en dessous de l'éolienne. Quel est l'impact sur le bétail et quelles sont les contraintes liées à une ferme qui serait déjà installée avant votre éolienne?
Parce qu'on parle des personnes qui sont impactées, mais au niveau des ovins, en l'occurrence, y a-t-il aussi des études qui sont faites sur l'impact sur ces animaux qui seraient juste en dessous?
Si on parle d'une ferme, donc il faut distinguer si c'est une habitation, ben là, il y a... Donc juste une étable, donc une exploitation dans laquelle il y a des personnes qui travaillent. Mais s'il y a des personnes, par exemple, qui travaillent de manière permanente le truc, nous on va dans l'étude, par exemple, considérer ça comme une zone sensible où il y a les normes d'ombrage doivent être respectées au même titre que pour les habitations, au même titre que des bureaux. Après, pour le bétail en lui-même, c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié, notamment en France, suite à enfin, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, notamment sur les vaches, les ovins, pas à ma connaissance, mais il faudrait que je revoie la bibliographie, et qui montre qu'il n'y a pas d'impact spécifiquement de l'éolien sur le bétail. Ça, pas d'impact.
Sur la fécondité, sur la productivité.
En tout cas, il y a déjà eu des cas, parce que s'il suffit de taper éolienne, vache, dépérissement sur Google, on tombe vite sur des constats qui pourraient paraître très catastrophiques. Après, les choses ont été étudiées plus en détail par des agences nationales, notamment en France, l'ADEME et l'ANSES, qui n'ont jamais pu démontrer vraiment de cause, en tout cas de lien, entre d'éventuels dépérissements observés, qui parfois existent vraiment, et l'installation d'éoliennes. Souvent, c'est plus lié à ce qu'on appelle des courants perdus, des courants parasites, qui sont liés à l'installation électrique, par exemple, de l'étable en elle-même, qui est parfois vétuste, etc. C'est les causes qui ont été rapportées, mais en tout cas, l'éolien a été, entre guillemets, mis complètement hors de cause.
Ah, madame,
et en Wallonie, je n'ai pas connaissance de l'éolien, est déjà implanté depuis 15-20 ans, de cas, et beaucoup en zone agricole, de cas de dépérissement ou de baisse de productivité sur le bétail.
Juste pour rebondir par rapport au pipeline de temps dont monsieur parlait, j'ai évidemment été confronté au problème et je vous confirme que le trait jaune qui passe, c'est bien le pipeline de l'OTAN. Donc,
il est déjà quelque part sur le plan des zones étudiées ou à étudier. Une précision de madame par rapport au démantèlement et ce qui pourrait arriver après.
Donc, si j'ai bien compris, c'est pas que de toute façon vous mettez en autre. Dès que donc que vous mettez un autre éolien,
oui.
Non.
C'est une possibilité. Okay. Oui, c'est une possibilité. Mais la procédure recommence. Donc il faut faire organiser une RIP, une redemande de permis, etc. Quoi.
Alors je sais que je dois aller chez Monsieur tout à l'heure et là aussi, mais je m'arrête, je suis sur ma route.
Déjà, je suis content de savoir qu'il faut faire attention à tous les mots. Vous dites que tout va être enlevé et puis les pieux restent. Donc, il faut peut-être être précis. Je pense que je rejoins pas mal de commentaires. Tout, c'est pas tout. Il reste des pieux, c'est pas tout. Vous avez dit tout, on a précisé, c'était pas tout. Donc, je pense que c'est pas mal de faire vraiment attention à ce que vous dites. Dans l'étude d'incidence, c'est ce qui va aussi avoir un impact sur le patrimoine des gens. Une maison a une certaine valeur. Tout d'un coup, il y a 250 mètres d'éolienne qui poussent devant. Bah, logiquement, la valeur de la maison pourrait être vue. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont pensés par Luminus pour compenser la perte de valeur patrimoniale et immobilière des biens?
Alors, la question est adressée à Luminus, donc on va vous proposer d'y répondre.
En termes d'études,
Pour ce qui est des études, je préfère prévenir, comme ça vous ne serez pas déçus quand vous aurez l'étude d'incidence, mais nous, on ne va pas évaluer la perte potentielle sur la valeur d'une maison, parce que ça reste quand même quelque chose de très subjectif. Il y a des personnes qui ça dérange, d'autres pas. Ça peut repousser certains acheteurs, d'autres pas. Une maison, très localement, peut être plus impactée. Et le voisin ne sera pas impacté parce que sa maison est orientée différemment. Il ne voit pas les éoliennes depuis chez lui. Donc, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à chaque maison et qui peut être... Et il y a vraiment beaucoup d'éléments subjectifs. Donc, à évaluer et quantifier, c'est très compliqué. Après, il y a des études plus macro, entre guillemets, qui ont déjà été réalisées. En Wallonie, peu. En Eni, la seule à ma connaissance, elle date déjà de 2010, c'était à un moment de l'installation du parc de Perouet, justement, donc pas très loin, où la Chambre des notaires de Belgique avait fait une étude au travers d'enquêtes, notamment au niveau des agences immobilières de la région, pour voir s'il y avait un impact. Cette étude avait été assez claire, avait démontré qu'il n'y avait aucun impact. Il y avait potentiellement un petit effet d'annonce. Au moment d'annonce du projet, ça peut un peu freiner, mais généralement, une fois que les éoliennes sont là, le cours de l'immobilier reprend tout à fait son chemin habituel, donc il n'y avait pas d'impact. Il y a des études en Flandre. En effet, mais du coup, on n'a pas encore de retour d'expérience sur des éoliennes de cette taille. Il y a des études en Flandre, quand même, qui ont été faites, notamment par la KUL, qui montrent, dans certains contextes où il y a des habitations très proches, où ils parlent de perte de quelques pourcents, 3% de perte sur la valeur immobilière d'un bien. Il faut savoir qu'en Flandre, le contexte est aussi différent, mais des éoliennes beaucoup plus proches des habitations qu'en Wallonie. Et la plus grosse étude et la plus récente, c'est en France, et là qui est assez intéressante parce que c'est une étude qui à la fois qualitative et quantitative, donc qui s'est basée sur toute une analyse statistique de transactions immobilières autour de parcs éoliens et également sur une étude plus qualitative sur d'enquête auprès des gens. Et là, ce qu'il en ressort en gros à la conclusion, c'est qu'il pourrait y avoir il parle 1,5% de perte à valeur immobilière pour les habitations vraiment proches d'un parc éolien. Après, encore une fois, ça dépend toujours du contexte local, etc.
Je rappelle que ce n'est pas l'objet d'une étude d'incidence, c'est d'autres organes qui devraient s'en charger de ce genre d'études plus locales, peut-être par rapport à l'implémentation de ces éoliennes. Monsieur.
Oui, moi j'avais une question sur la situation des deux éoliens. On voit que c'est en zone agricole, on en parlait d'ailleurs, et on a ici un voisin qui va être impacté, mais est-ce que vous êtes propriétaire du terrain ou sur lequel vous allez mettre l'éolien? Et deux, est-ce que donc, si vous n'êtes pas propriétaire, est-ce que vous partez du principe qu'en négociant avec les autorités publiques, vous allez faire une expropriation du terrain de l'agriculteur?
Ah oui, comment ça se passe? Est-ce que l'agriculteur reste propriétaire du sol et de l'exploiter, ou est-ce que c'est Luminus qui devient propriétaire de la parcelle sur laquelle cette éolienne va arriver?
Non, nous ne sommes pas propriétaires du terrain, donc on a eu des contacts avec le propriétaire et on a signé un contrat foncier.
Donc vous êtes bailleur quelque part, vous êtes locataire du lieu pendant le temps de l'exploitation.
Pendant le temps de l'exploitation, oui, enfin s'il y a un permis évidemment.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais loupé une main là-bas, il me semblait bien. Je vais arriver chez vous, monsieur. Vos noms, prénoms et localités, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas encore entendu.
Oui, Marc Soutelet, j'habite à Wavre aussi, chaussée de Tambour. Je voulais savoir quelle était la part d'ouverture au capital qui était prévue pour la commune et les citoyens dans le projet.
Par rapport aux coopératives dont on a parlé tout à l'heure?
Oui, c'est ça, mais par rapport à la Pax Eolienica 2 qui impose d'avoir un minimum de 25% aux communes et aux citoyens et de voir qu'est-ce que vous envisagez sur ce projet-ci.
Oui, donc à ce stade-ci, comme je l'ai dit, tout reste ouvert. Hein, donc si vous manifestez un intérêt, revenez vers nous et puis on en discutera, mais effectivement, tout est ouvert.
Vous êtes représenté dans une coopérative? Parce qu'il y a pas de... Non, parce que ça peut... Souvent, on a des représentants de coopératives dans la salle et les contacts se font également à cette occasion pour cet aspect-là.
Voilà,
on parlait de
25%. 25%, oui, 25% pour... Non.
Parce que ma question, c'était de voir est-ce qu'il y a eu aussi des contacts préalables avec la ville de Wavre, par exemple, par rapport à ça. Peut-être le deuxième sens de ma question, c'est que là où je trouve dommage, c'est que tout, effectivement, va chez GSK. Alors, j'entends bien les contraintes et les facilités de venir se brancher chez GSK, qui va de toute façon tout pomper. Mais du coup, ça exclut aussi les projets de communauté d'énergie citoyenne ou ce genre de choses. Enfin, voilà. C'est-à-dire que les bénéfices qui pourraient être remis aussi à la ville ou aux citoyens, ils sont très réduits dans ce projet, en tout cas.
C'est vrai que par cette particularité, c'est tout à fait différent, l'intervention citoyenne, c'est peut-être pas directement sur l'électricité qui sera produite là-bas. Alors comment ça se passe dans ce cadre-là?
Ici, effectivement, tout sera autoconsommé, mais GSK n'est pas propriétaire et n'a rien à voir dans les fonds des deux éoliennes. Donc les deux éoliennes, aujourd'hui, c'est Luminus qui les finance et Luminus est ouvert à une participation citoyenne à discuter pour 25%, pour plus. Tout à fait, on est tout à fait ouvert, évidemment.
Mais ça ne reviendra pas forcément dans une communauté d'énergie, des choses comme ça, dans ce cas-ci.
Non, ici on parle d'une participation financière au projet.
C'est ça. Parle bien d'une coopérative locale.
Coopérative, oui, un financement.
Monsieur.
Oui, moi je voudrais savoir ce que pense notre nouveau bourgmestre de ce projet.
Alors, je vais aller tendre le micro à monsieur le bourgmestre qui s'est déjà exprimé tout à l'heure pour vous souhaiter la bienvenue, mais qui n'a pas donné son avis. Là, vous êtes directement interpellé. Alors, dites-nous.
Mais, vous savez, tout projet qui permet de résoudre ou d'aller dans le bon sens concernant le problème de la crise climatique est a priori quelque chose que je soutiens très fort. Parce que il faut être conscient de ce que nous vivons actuellement au niveau réchauffement climatique, rien que pour les problèmes des inondations que nous avons à Wavre. Et donc tout ce qui permet diminuer cette production de gaz à effet de serre, pour moi, recueille un avis a priori positif. Maintenant, ce n'est pas uniquement ça, évidemment, qu'il faut mettre en compte. Il y a toutes les contraintes liées au projet. On a parlé des contraintes sonores, on a parlé de nos voisins d'Uldenberg, hein, qui sembleraient effectivement, parce que quand je vois l'orientation par rapport, il semblerait a priori que nos voisins néerlandophones seraient plus impactés. Donc il faut être sensible à tout ça, il faut pouvoir répondre à tout cela. Donc globalement, moi, ce que je dis, c'est que mon avis est a priori favorable. Pour les raisons, globales, climatiques qui nous sont imposées actuellement, pour lesquelles il faut qu'on trouve des solutions. Mais dans le cas spécifique de ce projet, il faut analyser toutes les contraintes que ça va poser. Et les gens qui me connaissent savent que je suis très attentif à toutes les nuisances potentielles que tout projet peut avoir ici dans la commune.
Merci pour cette réponse qui a l'avantage d'être claire, je crois, sur la position. Mais les autres communes du côté néerlandophone seront consultées également. On est ici à Wavre parce que, évidemment, on est en localisation du projet au niveau du sol. Qu'en est-il d'autres questions qui... arriverait potentiellement. Voilà, monsieur, vous êtes devant, je ne vous ai pas vu, désolé. Vos noms, prénoms, localité.
Gérard van der Weken, Tonnenstraat, Hautembourg. Et je vais demander quelque chose concernant l'ombre, parce que ça va être toujours venir chez nous, parce que nous sommes dans le nord du projet. Et 250 mètres, ça c'est quand même une très grande hauteur. Alors là, quand l'ombre se passe au jardin et aux maisons, est-ce que les éoliens vont s'arrêter? Et est-ce que ça ne risque pas que ces éoliens s'arrêtent pendant toute la journée parce qu'il y a beaucoup d'habitants au Tambour, Sint-Gerard-Rode, même peut-être Sint-Joris-Weert, surtout dans l'hiver, quand le soleil est très bas, ça va être une très très grande longueur de l'ombre, je crois.
Voilà, c'est l'ombre portée hein, dont on va parler ici sur les communes qui sont situées au nord et qui vont avoir donc le plus cette ombre. Est-ce que parfois on doit arrêter l'éolienne à cause de ce phénomène?
C'est une excellente remarque et c'est vrai que d'habitude je précise ici, j'ai pas fait. Mais c'est vrai que donc j'ai parlé des normes 30 heures par an, 30 minutes par jour. Après, nous, plus l'éolienne est grande, plus l'ombre se propage loin, effectivement. Plus le rotor est grand, plus il y a d'ombre également. Et si on constate au travers de nos modélisations qu'il y a des dépassements prévus, parce que les habitations sont relativement proches ou autres, généralement, on met ça en évidence dans l'étude. Et alors, on recommande de prévoir ce qu'on appelle, sur l'éolienne, c'est un shadow module. Donc, c'est un dispositif qui permet d'immobiliser temporairement l'éolienne et qui est paramétré de façon à ce que quand les conditions sont favorables, les conditions météo sont favorables à la propagation d'ombre au niveau d'une habitation, donc on rentre les coordonnées de l'habitation, la façade de la maison peut être même paramétrée, modélisée, etc. L'éolienne va simplement s'arrêter pour ne pas dépasser ce seuil de 30 minutes par jour ou 30 heures par an. Oui. Donc c'est quelque chose qui est vraiment maîtrisable techniquement. Et dans l'étude, évidemment, si cette recommandation a lieu d'être, on évalue les arrêts potentiels que pourrait...
Monsieur parle notamment des saisons hivernales, quand le soleil est plus bas.
C'est vraiment en période hivernale, quand le soleil est très bas, très rasant, où l'ombre va le plus loin, et donc potentiellement jusqu'à des zones d'habitat. Et donc on évalue le nombre d'heures par an auxquelles il faudra arrêter l'éolienne, donc ça peut être 100, 200 heures, et c'est pris en compte dans l'évaluation de la production de la machine. Et donc c'est au-delà, on a parlé des bridages sonores, ça peut être des arrêts pour respecter les normes d'ombre portée qui sont évaluées également.
Et là, une nouvelle fois, chez Luminus, en fonction du ratio économique, vous déciderez de faire ou pas faire le projet.
Oui, oui, exactement, exactement. Oui, oui, si on doit trop l'arrêter, si le bridage est trop important, que ce soit pour le bruit, que ce soit pour l'ombre portée, oui, le projet ne sera pas économiquement viable.
J'aurais une petite question. Si une des deux éoliennes, un des projets vient d'être annulé pour une raison, le temps, enfin, tout ce qui peut arriver, est-ce qu'un projet à une éolienne est faisable ou là, vous dites que c'est bon, laisse tomber?
Il y a des projets à une éolienne qui se font, en tout cas.
Oui, il y a des projets autour des zonings, il y a beaucoup de projets à une éolienne.
Vous devez être indépendant, parce que j'entends beaucoup entre guillemets indépendants. Peut-être eux, maintenant, juste en ayant la réponse.
Ça se fait, il y a tout. Il y a beaucoup de projets autour ou dans les zonings où il n'y a qu'une éolienne. Donc après, aux fonctionnaires wallons de décider.
Avec encore moins de rendement.
Oui, aux fonctionnaires wallons de décider s'il estime que le productible est trop bas.
Donc le fonctionnaire peut vous dire, vous avez un projet de deux éoliennes, moi j'en autorise une, et vous pouvez aller plus loin dans la procédure sans revenir ici?
Non, je veux dire par là qu'il pourrait se dire, il y en a une là qui ne me plaît pas, je vais refuser les deux parce que pour lui, une, c'est pas assez.
D'accord, ça se pourrait aussi.
Voilà, c'est celle de fonctionnaire qui décide.
Pas oublier, il y a un Naturgebiet, juste que vous sachiez, toute la partie flamande là, donc il y a les trois petits points, les petits pointillés blancs qui sont la Flandre, tout au-dessus est du Naturgebiet, donc l'équivalent Natura 2000, tout ça est du Naturgebiet. Donc je ne sais pas quelle distance il faut par rapport au Naturgebiet, mais tout ça est Naturgebiet. Je vois monsieur qui dit non de la tête, je ne sais pas si vous aviez une réponse.
C'est pas une zone Natura 2000 de l'autre côté.
C'est Natura. Alors, c'est là que je vis. Donc je vous jure que c'est, je peux pas faire grand chose au niveau immobilier. C'est du Nature Cubit. Et donc c'est peut-être pas Natura 2000, c'est Nature Cubit. Je connais pas la différence.
C'est l'équivalent. Peut-être. Oui,
voilà.
Je sais pas.
Voilà. Donc c'est Natura 2000 n'est peut-être pas, mais je vous dis que c'est du Nature Cubit. Donc je vous conseille de faire attention à toute cette composante. Avec les chauves-souris, les bûches, il y a tout ce qui se passe là-bas, j'y vis, donc je le vois, et je sais ce que je peux faire et pas faire chez moi. Donc faites attention à ne pas aller trop vite, allez vite voir là-bas, parce que ça peut être une contrainte assez grande pour vous.
Oui, ça, ce sera directement pour Tanguy de Jagere chez Cersus. Je vois d'ailleurs qu'on note, parce que c'est, voilà, c'est le genre d'information qu'on échange. Alors, ça peut vous paraître particulier, mais c'est aussi à ça que sert une réunion comme celle-ci. C'est bilatéral et on vient vraiment sonder le terrain et ça sert dans l'étude d'incidence qui va avoir lieu. Monsieur.
Oui, je reviens sur le slide. Le premier point que vous évoquez là, c'est respect distance aux zones d'habitat. Mais que dit la réglementation en termes de distance exacte, minimale à respecter?
On peut préciser ça peut-être?
Oui, je peux te... en Flandre, il y a pas de distance, c'est simple. Mais en Wallonie, c'est pour les zones d'habitat, donc ce qui est vraiment zone d'habitat au plan de secteur. Donc, on voyait les noyaux rouges tout à l'heure, c'est 500 mètres plus la moitié de la hauteur d'éolienne. Donc, le cas d'une éolienne de potentiellement 250 mètres, c'est, si ça revient à 625 mètres à respecter. Et pour les habitations hors zone d'habitat, donc qui vont se retrouver en zone agricole au plan de secteur, c'est une distance minimale de 400 mètres à respecter. C'est ce que dit, encore une fois, c'est même pas une loi, c'est un cadre de référence, c'est des préconisations auxquelles on peut déroger. Bon, généralement, les promoteurs éoliens essayent de les respecter.
Et là, il y a une autre couleur sur le plan qu'on a devant nous, dans ce... pour les habitats qui ne sont pas regroupés.
Oui, j'ai mis un buffer à 400 mètres qui est le bleu plus clair, et puis un buffer à 450 mètres.
Bon. Qui est le bleu plus foncé dans ce cas-là.
Qui est le bleu, oui, qui va au-delà du bleu clair. Hein, donc, voilà. Et pour les zones rouges, on est plutôt... au niveau des distances des zones d'habitat, on est plutôt à 800 mètres qu'à 625 mètres.
Oui, je me permets de revenir sur la carte. Donc, pour l'éolienne numéro 1, quand vous regardez vers le nord, vous voyez, c'est inscrit à Hasselheide-Straat. Il y a des habitations. À quelle distance sommes-nous?
Alors, les habitations qui sont voilà, sur la rue, qui est directement derrière la frontière linguistique, on devrait être à quelle distance
Oui,
560 mètres de Diarrivera.
Entre 500 et 600 mètres, oui.
Assez précis, 560, comme ça on a une distance qui a été évoquée sur notre archive qui fera PV ce soir, évidemment. Voilà, je vais retourner chez monsieur. On arrive tout doucement à 21h. S'il y en a qui ne se sont pas encore exprimés, n'hésitez pas à lever vos mains. On peut dépasser quelque peu l'heure qui était fixée, évidemment. Allez-y.
La base que vous avez utilisée pour mettre les différentes zones d'habitat, pas habitat, agricole, enfin tout ce que vous avez mis dessus, c'est basé sur les normes wallonnes, forcément. Donc on est bien d'accord que donc on ne voit pas la zone d'habitat néerlandophone là-haut du tout dans votre tableau. Parce que ça voudrait dire que de tous nos collègues qui sont nos amis qui sont ici, ils habitent tous dans une zone non habitable. Donc en fait, en gros, vous avez juste repris les normes wallonnes, on est juste à la frontière, et en fait, si ça tombe au niveau néerlandophone, la zone d'habitat, elle va jusqu'à la frontière.
Si je ne m'abuse, la zone bleue au nord, c'est la zone d'habitat qui est en Flandre ou pas, sur le plan?
En fait, comme il n'y a pas de cadre qui demande une distance minimale par rapport aux zones d'habitat, ni même aux habitations par rapport aux habitations flamandes, ici, par souci maximaliste, on a pris une distance, je pense, de 400 mètres par rapport aux habitations, comme si c'était des habitations isolées. En sachant que, voilà...
Qu'elle soit wallonne, flamande, ça a été traité de la même façon sur le schéma qu'on voit ici.
Oui, tout à fait.
Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. J'ai l'impression, et vous me dites le contraire peut-être, avec une dernière. Attendez, je viens.
Oui, donc par rapport aux zones d'habitat, c'est 500 mètres plus la moitié de la hauteur de l'éolienne. Ici, en l'occurrence, au maximum 625 mètres. Et par rapport aux habitations isolées, ça c'est fixe, c'est toujours 400 mètres.
Et qui se situe où? Est-ce qu'on peut aider à la situer peut-être? Attendez.
Voilà.
Alors, il y a un laser, le petit bouton en dessous, montrez-nous.
C'est le bouton
en dessous. Donc on descend chez ces deux tambours et juste que je ne me trompe pas, juste là il y a une maison. Et là il y a tout un quartier résidentiel avec plusieurs maisons.
Tout à fait. Et les distances de garde reprennent bien ces distances. On est à bien plus que 625 mètres par rapport au quartier résidentiel et à bien plus que 400 mètres par rapport aux habitations isolées.
Oui. Alors, peut-être le micro à votre droite, parce que j'ai l'impression que...
Oui, en fait, la plaie bleue cache la plaie rouge. Je ne sais pas si j'ai moi.
Oui. C'est moi qui l'ai.
Donc ici, il y a du rouge. Donc ça, c'est par rapport aux distances des quartiers, des zones d'habitat. Et les maisons isolées cachent la plaie. Donc de là à là, on est à 600. Je ne sais pas où était votre maison. C'est par ici ?
Juste à droite, juste au-dessus du Ottenburg. Là, voilà, vers là.
Donc là, il y a une maison, oui. Oui, oui, tout à fait.
Là, c'est à la ferme dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et là, au plan de secteur, on n'est pas sur le... La même couleur.
En tout cas,
voilà.
Toutes les distances des habitations, qu'elles soient isolées ou pas, seront reprises dans l'étude d'incidence. On liste tout ça, on donne les distances exactes entre l'éolienne et la façade de l'habitation.
Voilà, je crois qu'on va mettre un terme à cette soirée pour le moment. Une toute dernière, allez, la toute dernière, le mot de la fin pour vous, monsieur. J'arrive chez vous. Dites-nous.
Sachant l'information qu'on a eue par des groupes WhatsApp sans aucune publicité. Quand est-ce qu'on va savoir que l'étude d'incidence et les délais sont atteints? Parce que si c'est dans le même gabarit, on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit, ni donner aucun avis.
Voilà, quand on aura déposé le permis avec la consultation à la population, une nouvelle fois, on peut peut-être rappeler comment ça va se passer à ce moment-là. Une fois que l'étude d'incidence est terminée, Tanguy, elle est communiquée publiquement?
Ben, une fois que l'étude d'incidence est terminée, que le dossier d'introduction d'un non-permis est déclaré complet et recevable par l'autorité, va débuter effectivement, il y aura une enquête publique de 30 jours. Et là, la législation prévoit toute une série de mesures de publicité, d'annonce cette enquête publique. Donc il y a les fameux panneaux jaunes qui sont normalement affichés autour du site, je crois également aux valves de la commune. Généralement, certaines communes l'annoncent aussi sur leur site internet. Et puis il y a les publications dans les journaux également. Dans les 8 jours qui précèdent la date d'ouverture de l'enquête publique, il doit y avoir une publication dans un journal toute boîte, également comme Le Vlan, et dans deux journaux quotidiens qui sont... de journaux quotidiens.
Est-ce qu'on peut peut-être proposer que le journal local de Wavre soit parmi ces publications? C'est une recommandation qu'on peut peut-être faire lors de la publicité autour de ce dépôt de permis et de l'étude, la consultation qui sera faite à nouveau des citoyens rassemblés ce soir. Alors je rappelle également, puisque voilà, toute boîte au tambour. Voilà, je le dis pour que ce soit bien dans le PV, et c'est pour ça que je me permets de reformaliser les choses, c'est pour que ce soit assez clair quand le PV écrit va être fait, c'est pas du tout pour amphithéliser qui que ce soit, et merci de l'avoir compris. Voilà, on va mettre un terme à la partie d'aujourd'hui, parce qu'il est l'heure, mais évidemment, derrière ça, vous avez, on le rappelle, jusqu'au 12 février pour écrire, d'une part, à la commune de Wavre, donc au collège des bourgmestres et échevins de Wavre. C'est là que vous envoyez vos courriers, vous faites une copie à Luminus. Vous avez, je crois, les adresses dans le dépliant qui vous a été donné. Si vous n'avez pas le dépliant, il y en a à l'entrée. Et que ce soit vous avec d'autres questions ou les mêmes, si vous voulez les reposer pour être certain, avec d'autres observations, vos voisins qui n'ont pas pu venir ce soir ou qui n'ont malheureusement pas été informés, tout le monde peut s'exprimer par ce biais, évidemment. Et que vous soyez du côté néerlandophone, du côté francophone, c'est à la commune de Wavre qu'il faut écrire. C'est là que tout doit être reçu pour ce délai légal jusqu'au 12 février. Donc c'est 15 jours. Calendrier après la réunion de ce soir. Je tiens à vous remercier. Désolé pour quelques échanges qui sont parfois un peu plus francs, mais je crois que tout le monde a pu s'exprimer, qu'on a tenté d'avoir des questions, des réponses et que les uns et les autres ont tenté de s'entendre. On n'essaye pas de vous persuader. Vous avez tout à fait le droit, évidemment, d'être pour, contre le projet et de vous faire une opinion à chacun d'entre vous. Et puis, ben, on verra ce qu'il en sera de ce projet. En tout cas, merci à vous pour votre participation, d'avoir pris de votre temps pour venir vous exprimer ce soir. À très bientôt, je l'espère.